Bonsoir à tous. Donc, pour cette nouvelle conférence sur l'entête du Libre Team Speak en ce dimanche 4 décembre 2011. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le journaliste d'investigation Victor Dedage. Victor Dedage pour une conférence ce soir sur Cuba, hein, pour savoir si Cuba est un modèle de résistance ou une résistance au modèle. Tel est le titre de la conférence. Victor Dedage est entre autres rédacteur et même propriétaire du site legrandsoir.info, un site excellent site de journalisme et d'information géopolitique. Vous pourrez donc vous rendre ce site, on vous redonnera les coordonnées. Très bien, donc je vais lui laisser la parole pour cette conférence.
Bien, bien, bonsoir à tous. Donc, l'objectif, le titre de la conférence ce soir, c'est pour faire aussi une petite correction, qu'il y a une petite erreur dans l'annonce, c'est modèle de résistance ou résistance d'un modèle. Et pour commencer, je vais me reporter à un événement qui a eu lieu le 25 octobre 2011 aux Nations Unies. C'est un événement qui se reproduit chaque année depuis 20 ans. Et qui est une sorte de coup de tonnerre dans le ciel de la géopolitique mondiale et qui passe pourtant totalement inaperçu dans les médias occidentaux, dans une sorte de silence assourdissant, comme on dit. Il s'agit du vote de l'Assemblée générale des Nations unies relative au blocus des États-Unis contre Cuba pour la 20e année consécutive. Cuba a présenté une motion où elle demande aux adhérents, aux membres de l'Assemblée générale, de se prononcer sur la nécessité de faire cesser le blocus des États-Unis contre Cuba. Il faut dire que cette résolution présente deux particularités uniques au sein des Nations unies. La première particularité, c'est que c'est probablement, je crois que c'est l'unique, la seule et unique résolution qui ose appeler les États-Unis par leur nom. Généralement, les autres résolutions vont périphraser pour faire comprendre que, mais sans oser citer les États-Unis. Ici, les Cubains, selon leur mode opératoire habituel, n'y vont pas par quatre chemins et désignent le coupable et nomment les États-Unis d'Amérique et la nécessité de lever le blocus. Donc, depuis 20 ans, chaque année, l'Assemblée générale des Nations unies est appelée à se prononcer. Et depuis 20 ans, les majorités vont croissantes en faveur de la levée du blocus, croissantes jusqu'à devenir totalement écrasantes, comme le dernier vote qui a eu lieu donc en octobre 2011, où 186 pays ont levé en faveur de la levée du blocus, et seulement deux pays, les deux pays qui votent toujours, encore et toujours, et depuis le début, contre la levée, c'est-à-dire pour le maintien du blocus, les deux pays étant évidemment les États-Unis, bien sûr, et Israël, comme de bien entendu, qui votent systématiquement avec les États-Unis. On trouve, selon les années, de temps en temps, des États, dont l'Albanie, en 93, qui, paraît-il, s'est excusé après en disant qu'ils n'avaient pas bien compris la question. Et puis les îles Marshall et Palau, les îles Palau, je ne sais pas, enfin bref, des États comme ça. Donc, nous sommes en face d'une situation où l'unanimité mondiale est, pour ainsi dire, totale. Et c'est la deuxième caractéristique de cette résolution, c'est probablement la seule résolution des Nations Unies qui recueille une telle unanimité. D'autres résolutions sur des critères, sur des sujets peut-être plus consensuels, bah, bizarrement, ne recueillent pas de tels pourcentages, une telle unanimité. C'est donc un événement assez extraordinaire, assez particulier, qui ne se déroule qu'à ce moment-là, et vous n'en entendrez absolument jamais parler dans les médias. La question intéressante, c'est pourquoi est-ce que 186 pays vont-ils prendre la peine de voter pour un blocus qui, par ailleurs, selon les médias, n'existe pas vraiment et ne sert que comme une justificative aux dirigeants cubains pour expliquer leurs problèmes? C'est une question intéressante. À vrai dire, en fait, moi, Je rêverais, moi, un jour de faire une conférence où le nom du pays ne serait pas annoncé. Ce serait juste une conférence sur un pays, voilà, où les gens viendraient écouter sans a priori. Des a priori, on en a tous, et même quand on croit qu'on n'en a pas. Et dans une telle conférence, je raconterais des choses vues, entendues, que j'aurais vécues, des choses apprises aussi chez d'autres, et surtout des choses confirmées avec l'expérience. L'expérience est son indispensable compagnon, le temps. Parce qu'il faut du temps pour trouver la vérité. Plus l'information va vite, moins on a le temps, donc plus l'information est erronée. C'est une des grandes règles physiques de l'information des temps modernes. Eh bien, dans une telle conférence où le nom du pays ne serait pas annoncé, donc, je pense qu'une très, très, très grande majorité des gens, toutes tendances politiques confondues, feraient soit des O, soit des A. Soit dirait comme c'est intéressant, soit bah, c'est pas bête, et même penserait parfois bah ouais c'est normal. Et c'est ce normal lui-même qui signifierait que telle décision prise par exemple par les dirigeants nous paraîtrait logique, nécessaire et juste. Un normal donc qui chez nous apparaîtrait comme quelque chose de tout à fait extraordinaire, tellement la rupture avec les dirigeants ici est consommée. Mais bon, comme le nom de Cuba a été annoncé, je ne peux pas compter sur votre bienveillance. Alors, je vais essayer de commencer par quelques truismes, comme on dit. Alors, pour éviter les répétitions, je vais utiliser le terme de modèle d'une manière générique pour désigner à la fois le modèle social, économique et politique d'un pays, le modèle. Premier truisme, c'est un modèle, quel qu'il soit, sera d'autant plus critiquable et donc d'autant plus critiqué qu'il sera perçu comme un danger ou une remise en cause du paradigme capitaliste et impérialiste. Notez bien que j'ai précisé quel que soit le modèle. Par exemple, l'Arabie Saoudite, où le modèle apparent est très éloigné du nôtre, où les femmes n'ont pas le droit de voter, ni de conduire des voitures, ni même de sortir sans être accompagnées par un proche, où les journalistes étrangers sont interdits, où le tourisme est interdit, où il n'existe aucun parti politique, où le prosélytisme en faveur d'une religion autre que la religion d'État est interdit, et où les cadavres des condamnés à mort sont suspendus à un hélicoptère et promenés au-dessus de la ville pour servir d'exemple, où le droit du travail est inexistant et celui des immigrés encore moins. Le modèle saoudien, donc, n'est pas un modèle de résistance. Il ne sera pas critiqué par les oligarchies médiatico-politiques. Il existe un autre pays, par exemple, où le modèle est relativement et même assez similaire à tout point de vue à notre modèle occidental, mais qui sera quand même couramment critiqué, qualifié même de dictature ou de populisme. Ce pays, par exemple, serait le Venezuela. Le Venezuela est un État en état de résistance, et donc la désinformation et la critique sont de rigueur, même lorsque le pays prend des mesures qui ont été prises chez nous dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire des événements tout à fait banals, comme par exemple ne pas renouveler le bail d'une chaîne de télévision qui aurait été participée à un coup d'État, chose qu'on aurait fait chez nous dans les mêmes circonstances. Un pays sera donc critiqué et attaqué non pas en fonction de la non-conformité de son modèle avec les canons de la démocratie occidentale, mais bien en fonction du degré de résistance qu'il opposera ou le danger supposé ou réel qu'il représentera aux yeux des oligarchies. Le danger ici peut évidemment se résumer à celui du danger de devenir un exemple pour d'autres. Par ailleurs, il n'existe pas aux yeux des Occidentaux, il n'existe pas de modèle alternatif officiellement acceptable. Citez-moi un seul exemple. Certains modèles seront tacitement acceptés, principalement par le silence qui sera fait autour. Les médias occidentaux ne s'aventureraient jamais à vendre les mérites de la société saoudienne à un public occidental. Comment le pourrait-il d'ailleurs? Ils préféreront ne pas en trop en parler. C'est une forme d'acceptation tacite. Pourtant, selon les critères occidentaux officiels qui servent à distinguer les bons des méchants, le modèle saoudien est critiquable sur tous les plans. Mais il sera néanmoins tacitement accepté. On peut évidemment penser que certains modèles sont plus facilement critiquables que d'autres, et c'est probablement vrai. Mais ce qui est important ici, c'est de bien retenir que ce n'est jamais son degré de critiquabilité, si je puis dire, qui rentrera en ligne de compte, mais toujours, toujours, son degré de résistance. Lorsqu'on a affaire à un pays dont le modèle n'est pas critiquable, selon les critères occidentaux, et qu'il s'agit d'un pays ami, là, tout va bien. C'est le cas de la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Lorsque le modèle est critiquable, mais que c'est quand même un pays ami, comme l'Arabie Saoudite, ben, il ne sera pas critiqué non plus. Lorsque le modèle en soi n'est pas critiquable, parce que c'est le même que le nôtre, mais que le pays est en état de résistance, comme le Venezuela, il sera critiqué et même violemment. Et il existe enfin l'impardonnable parmi les impardonnables, un État à la fois en résistance et doté d'un modèle forcément inacceptable, Cuba. Dernier truisme donc, un modèle est officiellement déclaré mauvais lorsqu'il est officieusement perçu comme un modèle de résistance, et uniquement dans ce cas-là, et quelle que soit la nature réelle de son modèle. Alors Cuba est en résistance depuis plus de 50 ans. Moi, j'aime bien faire des comparaisons parfois qui ne disent pas tout, qui disent quelque chose. Ce quelque chose, c'est à vous de décider quoi. La révolution en URSS a duré 70 ans, encore 20 ans, et la révolution cubaine aura atteint la longévité de la révolution soviétique. L'URSS a une population 20 fois supérieure à Cuba. Alors, si on ramène la durée de la révolution cubaine à l'échelle de l'URSS, eh bien, la révolution cubaine a déjà duré 1000 ans. Ou à contrario, si on ramène la durée de la révolution soviétique à la population cubaine, la révolution de l'URSS aura duré un peu plus de 2 ans. Bon, il n'y a rien de scientifique là-dedans, évidemment, mais quand même un petit message à ceux qui passent leur temps à faire des parallèles et à comparer et qui se plantent régulièrement, cela va de soi. Alors, c'est sûr que Cuba a résisté. Résisté à quoi? Bah, elle a résisté à une intervention armée, la baie des cochons, à un blocus économique d'une violence inouïe et unique au monde et qui se renforce avec le temps et non le contraire comme le prétendent, dont les effets sont terribles, drastiques, et j'ai pu en témoigner. L'année dernière, j'ai fait un reportage sur les effets du blocus dans les milieux hospitaliers, on pourra en parler. Cuba a aussi résisté à 2 chocs économiques gigantesques en 50 ans. Le premier choc, la révolution, lorsqu'elle a perdu tous ses partenariats commerciaux avec les États-Unis, et qu'il a fallu refaire toute l'industrie selon d'autres normes. Et ensuite, dans la fin des années 80, lorsqu'elle a perdu toute relation commerciale avec le bloc de l'Est et l'Union soviétique, et qu'il a fallu encore une fois tout recommencer. Cuba a aussi résisté à la plus grande campagne de terrorisme jamais subie par un pays. Le chiffre des attentats est de 3 000. Cuba a connu 3 000 attentats et grosso modo, le même nombre de victimes. Encore une fois, si on le ramenait à une échelle comme à l'échelle de la France, par exemple, ça ferait environ 20 000 attentats et 20 000 morts, 20 000 victimes. Est-ce qu'on peut imaginer à quoi ressemblerait la France après 20 000 attentats? Je vous laisse imaginer. Alors, Cuba, est-ce que c'est la résistance d'un modèle? D'un modèle, par exemple, qui perdurerait malgré tout. Les Cubains, quant à eux, détestent entendre parler de modèle. Chaque fois qu'on leur parle de modèle, ils disent « Ah non, 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 ne nous parlez pas de ça, c'est une idée, un concept qu'ils ont tous et en tout temps rejeté. » Il ne peut pas y avoir de modèle, ils disent, tout au plus des inspirations pour des situations géographiques, historiques, culturelles, etc., qui seront forcément différentes. Les Cubains sont donc les premiers à répondre « Nous ne sommes pas un modèle. » Il y en a même qui vont rajouter, et fichez-nous la paix avec vos histoires de modèles. Et pourtant, c'est peut-être là le seul point où je suis fondamentalement en désaccord avec les Cubains. Reste à définir, en fait, en quoi Cuba serait un modèle et ce que recouvre ce terme de modèle. Certains penseront, mais ça c'est de l'obésité intellectuelle, comme je dis, c'est-à-dire l'incapacité de dépasser le premier étage de réflexion. Et on s'essouffle comme ça, arrivé au premier étage et on ne monte pas plus haut. Certains vont dire, ah bah, Victor, si tu entends par modèle les comités de défense de la révolution ou le pouvoir populaire, ou je ne sais pas quel aspect de la société cubaine, ben non, c'est pas pour moi, ça c'est pour ce que j'appelle un modèle. Ça s'appelle des solutions qu'on cherche, qu'on trouve pas, qu'on cherche, on tâtonne pour une situation donnée. Alors Cuba, pour moi, c'est un modèle, oui, mais un modèle de quoi? Un ami cubain m'a récemment dit ceci et cette phrase m'a vraiment marqué parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Il m'a dit ça. Il m'a dit, tu te rends compte que Cuba est peut-être le dernier pays au monde où, en politique, on prononce encore le mot éthique. Et ça, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai que Cuba, si je devais parler de modèle, serait un modèle d'éthique. Un modèle d'éthique, par exemple, banalement, bon, je vais asséner quelque chose là, mais en vérifiant, je pense que la réalité, les événements me donnent raison, c'est que, par exemple, le régime cubain, si le régime ne dit pas tout, est-ce qu'il existe des régimes qui disent tout, est un régime, par exemple, qui ne ment jamais. C'est un point important parce que souvent les gens me disent, ah, mais comment tu sais ça? Ou comment tu as pu prévoir ça? Ma réponse est souvent très simple. Ma réponse est souvent, ben, si j'ai écouté ce qu'ont dit les dirigeants, j'ai rien inventé, je ne suis pas allé chercher des secrets. La classe politique cubaine est une classe politique qui ne ment jamais. C'est un point important, ça. C'est un modèle d'éthique. Par exemple, si j'ai le temps, je pense que j'ai le temps de raconter l'anecdote de Maria. Maria était la directrice du centre de traitement des enfants de Tchernobyl, qu'on m'a présenté, que j'ai eu l'honneur de rencontrer au début des années 90. À l'époque où j'étais encore un anticastriste, normal, parce que je lisais Libération, Le Monde, et je croyais à ce qu'il racontait. Et donc, je suis allé à Cuba parce que, pris de doute, après avoir connu la révolution nicaraguayenne et vu l'étendue et l'ampleur des mensonges politiques, je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à découvrir à Cuba. Alors, j'ai pris un billet, je suis allé, j'ai fait un tour, j'ai fait 3 000 km en compagnie d'amis et en cours de route, on nous a dit, il faut que tu rencontres Maria. Maria, donc, était chargée d'un centre où sont soignés les enfants nés à Tchernobyl et qui ont des problèmes encore aujourd'hui à cause de la radioactivité. Et ils sont gratuitement soignés. À l'époque, début des années 90, ils étaient environ 5 000. Je crois que maintenant, ils sont passés à plus de 20 000. Bon, je vous fais grâce de tous les problèmes posés. La conversation avec Maria a duré environ 4 heures, au lieu des quarts d'heure qu'elle nous avait accordés. Et à la fin des 4 heures, elle se lève et elle nous dit, bon, là, il faut vraiment que je vous quitte parce qu'il y a 200 enfants qui arrivent d'Ukraine, là, par avion, et je ne sais pas encore où je vais les mettre, où je vais pouvoir les faire dormir. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que une semaine auparavant, ou 15 jours auparavant, il y avait eu une résolution présentée par les États-Unis aux Nations Unies, à la Commission des droits de l'homme, une motion qui condamnait Cuba pour atteinte aux droits de l'homme. C'est les Américains qui le présentaient, évidemment. Parmi les rares pays qui ont voté en faveur de cette résolution, il y avait l'Ukraine. Et là, j'apprends que l'Ukraine, tout en condamnant Cuba pour atteinte aux droits de l'homme, va encore envoyer 200 enfants se faire soigner gratuitement dans une île qui connaissait une crise à l'époque, 1992, une crise économique terrible. Alors j'ai dit à Maria, mais Maria, est-ce que l'Ukraine ne vous a pas condamné il y a une semaine à l'ONU? Elle me dit, si, si. Et il vous envoie 200 enfants de plus? Elle me dit, bah ouais. Et j'ai eu cette réaction normale. Et je lui ai dit, et vous les acceptez, les 200 enfants? C'est là qu'elle m'a regardé avec un regard qui m'a fait comprendre que j'avais perdu toute l'estime que j'avais réussi péniblement à construire en 4 heures. Elle me lâche tout simplement cette phrase, c'est pas la faute des enfants. Et là, j'ai compris que je venais de prendre une des plus belles claques de ma vie. C'est une de ce genre de claques qu'on aimerait en prendre plus souvent. Alors évidemment, c'est Victor qui a eu cette réaction face à Maria en disant, et vous les acceptez? Et Maria lui a répondu, m'a répondu, ben, c'est pas la faute des enfants, mais comme je pense que n'importe lequel d'entre nous, n'importe lequel d'entre vous, à ma place, aurait posé la bonne question. Et comme je sais, mais aujourd'hui, que n'importe quel médecin cubain, à la place de Maria, aurait fait la même réponse, je dis donc que ce n'est pas une affaire entre Maria et Victor, c'est la réponse, non pas de Maria et Victor, c'est la réponse de Cuba à l'Occident tout entier. C'est comme ça qu'on prend une belle claque, et c'est en ça, entre autres, c'est juste un exemple que j'essaye de vous raconter là, que pour moi, Cuba est un modèle d'éthique. Cuba est aussi un modèle de solidarité. J'aime raconter, moi, que chaque fois que j'entends parler de guerre humanitaire, d'intervention humanitaire, c'est très dans l'air du temps, si on peut dire. Moi, la première guerre humanitaire, moi, intervention humanitaire, j'en connais qu'une, en fait. En deux, en réalité. Je n'en connais, mais une principalement. C'est l'intervention des Cubains en Angola dans les années 70, lorsque le régime raciste de l'apartheid sud-africain a tenté d'envahir tout le cône sud de l'Afrique en attaquant la Namibie et l'Angola, et où 200 000 soldats cubains sont passés, leur ont mis une raclée et ont provoqué la chute du régime de l'apartheid. Une fois l'armée raciste défaite, les Cubains sont rentrés chez eux en ne ramenant que leurs morts. Mandela en personne et lui-même a déclaré que c'était le seul exemple, et c'est toujours le seul exemple, d'une armée qui soit intervenue sur le continent africain et qui n'ait emmené avec elle que ses morts. 30 ans donc avant, 30, 75, ouais, 30, 40 ans avant le pseudo-concept de guerre humanitaire, eh bien Cuba avait déjà la sienne. Et la différence, c'est que ce s'en était une vraie. Cuba est un modèle de solidarité parce qu'au moment où je vous parle, il y a 30 000 médecins qui sont actuellement à l'étranger. Selon le niveau de vie et les moyens du pays où ils interviennent gratuitement ou parfois en échange de certains biens, sorte de troc, comme avec le Venezuela, qui n'est pas un pays pauvre, donc qui paye, entre guillemets, ses médecins. Haïti ne payant pas, par exemple. 30 000 médecins actuellement à l'étranger. Encore une fois, si on devait ramener ça à l'échelle de la France, c'est comme si la France envoyait, pour ainsi dire, de façon humanitaire, 150 000 médecins à l'étranger dans le cadre d'interventions humanitaires. Mais il y a pire encore, c'est que ces médecins ne sont pas envoyés dans les capitales, ils sont généralement envoyés dans les pays où on en a le plus besoin, donc dans les situations les plus difficiles, et même dans les pays où on en a le plus besoin, ils sont envoyés dans les zones où on en a le plus besoin. Dans les pays où on en a un peu besoin, c'est pour vous dire si ces pauvres médecins se trouvent vraiment dans des conditions difficiles. Mais le fait est que ce sont les seuls qui acceptent d'y intervenir d'une manière générale. Cuba est un modèle de solidarité parce qu'en 1982, j'ai vu une ambassade de Palestine, magnifique bâtiment qui traînait. Cuba est aussi un modèle de solidarité parce qu'elle a une école de médecine, fameuse école de médecine, qui forme des milliers de médecins chaque année pour des pays du tiers-monde, ceci gratuitement, en échange de simplement la promesse que la personne formée retourne dans le milieu d'où elle est issue pour exercer son métier de médecin appris à Cuba pendant 2 ans. C'est un engagement moral, évidemment. C'est pour vous dire, encore une fois, toute l'étendue de cette notion éthique que les Cubains exercent et appliquent régulièrement. Cuba est un modèle de solidarité parce que moi, on me parle toujours des prisonniers politiques à Cuba. Il faudrait un jour qu'on y revienne, peut-être ce soir. Mais c'est curieusement, on ne parle jamais des réfugiés politiques à Cuba. Et vous savez quoi? Pendant des années, j'ai essayé de connaître le chiffre des réfugiés politiques à Cuba. L'idée m'est venue. Cette question m'est venue un jour parce que je me suis rendu compte que tous les réfugiés politiques latino-américains que je connaissais, tous les responsables, tout le monde apparemment, un jour ou l'autre, était passé par Cuba pour se faire soigner, pour se cacher, pour se refaire une vie. Bref, Cuba avait reçu, recueilli, protégé, sans compter, les réfugiés du monde entier. À tel point que lorsque j'ai posé des questions à des hauts responsables cubains, combien de réfugiés politiques avez-vous accueillis? Ils étaient incapables de me répondre. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, l'idée de les compter, d'en tenir la comptabilité, ne leur était même pas venue à l'esprit. Je peux vous dire qu'ils sont des milliers, parce que lorsqu'on connaît un peu Cuba et qu'on se promène, il y a des villes, des villages entiers qui ont été construits, par exemple, pour accueillir les Chiliens. Des villages entiers qui ont été construits pour accueillir des sans-poids américains avec leurs familles. Je pense qu'on peut facilement parler de centaines de milliers, je dis bien de centaines de milliers, de réfugiés politiques à Cuba. À tel point que je crois qu'il n'y a pas un seul mouvement progressiste en Amérique latine qui n'a pas une dette envers Cuba. Cuba est un modèle de priorité aussi. Priorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en pleine période spéciale, dans les années 92-93, lorsque le PIB a chuté de 33%, c'est gigantesque 33%, c'est pour ceux qui ont les chiffres en tête, qui voient un peu, bon, pas mettons là-dessus, mais on chute de PIB de 33%, c'est énorme. C'est une économie de guerre en temps de paix. Avec la disparition de 80% de leurs échanges commerciaux, avec La Havane plongée dans la nuit noire, sans électricité et sans lumière, une ville entière de 2 millions d'habitants, et ses banlieues plongées dans le noir, eh bien, Cuba, à cette époque-là, fait le choix de tout investir dans l'éducation, de ramener les classes à 22, 20, 21, 22 élèves. L'éducation et la santé deviennent des priorités en pleine crise économique monstrueuse. Et petite anecdote qui vaut ce qui vaut, l'armée est sommée de vivre de ses propres moyens parce que l'État n'a plus les moyens de l'entretenir. Bon, je ne connais pas trop de dictatures qui donnent la priorité ainsi, et ce genre de priorité. La priorité à la santé à la population cubaine est telle qu'on arrive à une situation que j'appelle le paradoxe cubain. Ce paradoxe cubain, il est quoi? L'occidental est tellement habitué à juger ce qu'il voit, et tellement, il a tellement perdu l'empathie de l'autre, qu'il est incapable de distinguer ce qu'il ne voit pas. De distinguer, pas de voir, de le remarquer. Exemple, quand ils arrivent à Cuba, ils voient les immeubles déglingués, défraîchis, pas en très bon état. Et beaucoup ne se rendent pas compte qu'à Cuba, la santé, l'éducation, la population, ça se voit sur son visage, sur leur corps, qu'il y a une véritable politique. Et le paradoxe cubain, il est celui-là. C'est que le blocus fait tout pour détruire ces systèmes de santé et d'éducation, et les Cubains réussissent si bien à y résister qu'au final, certains Européens n'y croient plus. Ils disent, ah oh ben non, vous voyez bien que les Cubains sont heureux, qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont éduqués, pourquoi vous me parlez du blocus? C'est parce qu'on ne se rend pas compte à quel point et quels sont les efforts qui ont été accomplis pour arriver à ce résultat. Le paradoxe cubain, il est que les Cubains auraient été si efficaces, tellement efficaces à résister ou à atténuer les effets du blocus sur la population que l'occidental finit par croire que le blocus n'existe pas. C'est vraiment le contraire d'une prime à la réussite. On finit par ne plus y croire. Il faudrait presque que les Cubains, je ne sais pas moi, qu'ils cultivent, qu'ils mettent des handicapés, des malades le long de la route entre l'aéroport et le centre de la ville pour que quand les Européens passent, ils voient ça et disent, oh, les pauvres, etc., etc. C'est le paradoxe cubain. Les effets du blocus ne sont pas directement visibles, donc le blocus n'existe pas. Tout ça pour dire que Cuba est arrivé à une situation qui est quand même assez extraordinaire, et je l'ai vu de mes yeux, et contrairement à l'Europe, mais bon, l'Europe n'est pas une référence en ce qui me concerne, que c'est que Cuba est respecté par toute l'Amérique latine. J'insiste sur le terme « toute », tout régime confondu. J'ai été par exemple en 2005 à un congrès qui s'est tenu à La Havane, où j'ai vu toute la gauche latino-américaine, et même au-delà de la gauche, qui était présente, rendant hommage aux Cubains, et venant là, pour échanger avec les Cubains, et par solidarité avec les Cubains. Et même en France d'ailleurs, la solidarité avec Cuba, c'est un point important, c'est que cette solidarité s'exprime bien au-delà des clivages gauche-droite. Beaucoup de gens pensent, oui, la solidarité avec Cuba, c'est une poignée d'irréductibles staliniens, je ne sais pas quoi, nostalgiques des pays de l'Est. Il n'y a rien de plus faux. Moi-même, d'ailleurs, quand le mur de Berlin est tombé, j'ai débouché deux bonnes bouteilles de vin, donc je ne me sens pas vraiment concerné. Mais au-delà de ça, comme c'est public, je peux le citer. Le président du groupe des élus au conseil municipal de Paris, leur président, donc UMP, a fait, je crois que c'est l'année dernière, a rédigé un article public de solidarité avec Cuba qui le prêtait, sans ambiguïté. L'ancien secrétaire général du mouvement des jeunes de l'UMP, par exemple, idem. Et j'ai rencontré des journalistes du Figaro Magazine qui étaient là à une soirée en solidarité avec Cuba, etc., etc. Donc Cuba, modèle d'éthique, modèle de solidarité, oui, modèle de priorité, oui, est aussi un modèle de résistance. C'est-à-dire que c'est pas le tout de résister. C'est comment est-ce que je fais pour résister? Comment est-ce que je réussis à résister? Parce que mine de rien, quand on est un pays de 12 millions d'habitants, qu'on subit un blocus, qu'on se fait abandonner par les pays de l'Est et tous les alliés politiques immédiats, ben c'est pas simple. Et l'histoire récente nous montre que il suffit pas d'avoir une grande gueule pour résister à l'Occident, il faut avoir un petit peu plus. Et c'est un petit peu plus, heureusement pour eux, les Cubains, ils l'ont. Ils en ont même à revendre. Alors, moi, le modèle cubain de résistance, c'est sur le comment résister. Eh bien, il est par exemple dans leur façon de faire de la politique. Alors, faire de la politique, par exemple, c'est ne jamais se tromper de cible. C'est bête à dire ça, mais je crois qu'il y a beaucoup en France de progressistes et même de politiciens en général qui feraient bien de réapprendre un peu à faire de la politique et de cesser de faire de la politique politicienne, comme on dit. Les Cubains, par exemple, cherchent toujours les points d'appui, les consensus les plus larges pour faire avancer. Les Cubains, par exemple, quand ça fait 20 ans que je les observe, ne cèdent jamais sur l'essentiel et ne se butent jamais sur l'accessoire. Les Cubains, par exemple, font preuve d'un respect total envers les autres et une empathie pour toutes les luttes. Je vais prendre un petit exemple. Si vous tapez sur Google le tremblement de terre en Pakistan qui a eu lieu dans l'Himalaya, je ne sais plus exactement dans les années 95, 96 par là, vous allez tomber sur des tas d'articles, des tas d'articles, des tas d'articles qui vont vous raconter comment les Américains ont parachuté des vivres pour soigner une population pakistanaise très musulmane dans les hauteurs de l'Himalaya. Il faut paginer 40 ou 50 pages de Google pour arriver à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est un discours du ministre de l'Intérieur pakistanais qui, lors d'une réception, déclare que 80% des victimes du tremblement de terre dans les montagnes enneigées de l'Himalaya, dans un pays musulman comme le Pakistan, ont été soignées par des médecins cubains, sans qu'il y ait aucun incident. Personne, les médias occidentaux, n'en a parlé. Ils vous ont parlé des parachutages de caisses par des avions américains, et personne ne vous a parlé des médecins, des milliers de médecins cubains qui sont allés dans un pays au moins physiquement hostile pour eux, faire preuve d'une solidarité totale à l'égard de ces victimes. S'il y a un Pour moi, une façon de lutter contre le clash des civilisations, c'est bien celle-là. Plutôt que d'aller envoyer des drones et de bombarder les populations à l'aveuglette, les Cubains, eux, ils ont envoyé des médecins soigner les malades. Les Cubains, par exemple, ça c'est l'empathie et le respect qu'ils obtiennent en retour. Je reviens à cette vote à l'Assemblée nationale des Nations Unies. Le respect pour Cuba est quasiment total de la part de quasiment toutes les chancelleries du monde. Chercher le consensus le plus large et une participation maximum de la population. Ça, c'est important. À titre d'exemple, j'ai vécu l'expérience de la restructuration sucrière en 2003. En 2003, Cuba a dû fermer la moitié de ses usines de son industrie principale, qui était le sucre. Les cours s'étant effondrés et l'avenir n'était pas vraiment au sucre. Un tel plan concernait environ 200 000 travailleurs, c'est-à-dire plus d'1 million de personnes concernées avec les familles et les sous-traitants, pour une population de 12 millions d'habitants. Ça, à l'époque, ça correspondrait à bon, s'il y en a qui sont assez vieux de s'en souvenir, à l'équivalent d'un plan charbon et d'un plan sidérurgique en France. Si Cuba avait été une dictature, je sais exactement comment ce plan de restructuration se serait déroulé. Ce plan de restructuration se serait déroulé à grands coups de pied au cul. On aurait renvoyé sur les routes les travailleurs et la famille qui seraient partis mendier par les chemins. Et on aurait dit que c'est une restructuration et on aurait dit que les lois du marché allaient finir par absorber, arranger ça. Puis on aurait fini par les oublier. Et puis voilà. À Cuba, ils ont mis un an. Et pendant un an, ils ont fait participer tous les travailleurs dans toute entreprise, dans toutes les usines. Partout où nous avons été interroger les gens, tous nous ont raconté la même histoire. Pas un seul, pas un seul, pas une seule famille n'a été abandonnée au bord de la route pour une reconversion industrielle d'une ampleur gigantesque. C'est sûr que si cette restructuration avait jeté les gens dans la rue, oh là là, c'est sûr que les caméras occidentaux se seraient précipitées pour filmer les pauvres familles cubaines abandonnées, victimes de l'inefficacité socialiste du système cubain. Mais comme il n'y avait rien à filmer, on en revient un petit peu à ces paradoxes cubains, et puis que ça les arrangeait pas de le faire, eh bien, ils se sont évidemment désintéressés. Vous ne saurez donc jamais qu'il est possible de procéder à une restructuration totale, même quand on est un pays pauvre, sans forcément jeter les gens à la rue. Cuba est un modèle de résistance aussi parce que Cuba ne s'est jamais gaussé de mots. La révolution cubaine, elle, n'a jamais été virtuelle. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Elle n'a jamais été twitterisée et encore moins facebookée. En un mot commençant, Cuba a réhabilité, mais vraiment le sens de l'expression « faire de la politique ». Alors Cuba a résisté, ouais, mais résister à quoi au fait? Le cliché voudrait, pas le cliché, la règle voudrait que je vous réponde oui, pas résister à l'impérialisme des États-Unis d'Amérique. Bon, c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai, c'est un exploit. Ne me faites pas dire ou sous-estimer quoi que ce soit. Mais pour résister aux États-Unis d'Amérique, aux États-Unis d'Amérique, c'est pas le Luxembourg, à 150 kilomètres, pour résister au blocus, pour résister à tout ça, la première chose que Cuba, à laquelle Cuba a dû résister, c'est à la résignation. Cuba a résisté avant tout à la résignation. C'est important et surtout par les temps qui courent, où je pense que c'est vraiment la chose qui est en train de nous tuer tous petit à petit, à petit feu. Là, sur Internet, on voit souvent l'exemple de la grenouille dans l'eau chaude, là, qui, la température monte, et qu'on finira tous dans la résignation. Cuba a résisté à la résignation. C'est donc un modèle de persévérance aussi. C'est quand même pas simple de dire pendant 50 ans, je baisse pas les bras, et d'une génération à l'autre, et celle qui vient n'a pas l'air de vouloir baisser les bras non plus. C'est ce qui me donne courage. Et il y a eu quand même ces derniers jours un événement d'une importance extraordinaire. Et comme tous les événements d'une importance extraordinaire, elle passe inaperçue. Règle numéro un de l'information moderne. Il s'est créé en Amérique latine une nouvelle organisation qui s'appelle le CELAC. Le CELAC, c'est une organisation qui est une sorte de mini-Nations Unies pour l'Amérique latine, qui va remplacer l'organisation des États américains. L'équivalent, si vous voulez, pour le continent américain, de l'Union des États africains, si vous voulez, pour l'Afrique. Alors, pourquoi une nouvelle organisation, me direz-vous? Qu'advient-il de l'OEA? Ben, c'est très simple. Le CELAC va remplacer l'OEA avec les États-Unis en moins. Nous sommes dans l'arrière-pays, dans l'arrière-cour des États-Unis d'Amérique, de la doctrine Monroe qui spécifiait que tout ce qui était au sud du Rio Grande, c'était leurs affaires. Et nous voici en train d'assister à l'organisation, à la création d'une organisation des États latino-américains moins les États-Unis. Et lorsque je dis moins les États-Unis, ça veut dire tous les autres pays d'Amérique latine, encore une fois, toutes tendances confondues. Ceci n'est pas, ce s'est pas fait comme ça et c'est pas tombé du ciel. C'est Cuba qui est à l'origine de ça. La création du CELAC aujourd'hui, je crois que c'est vraiment l'aboutissement. Je crois que Raúl Castro s'est présenté à la Caracas là, hier ou avant-hier pour une sorte de cérémonie inaugurale du CELAC. Il a eu des mots pour dire qu'il était vraiment désolé que, par exemple, Fidel Castro ne pouvait pas être là. Il disait pas ça simplement pour dire, ah, oh, je regrette de pas être là, dans le genre, j'aurais bien voulu participer à la teuf. Non, non, non. Il regrettait qu'il n'était pas là parce que c'est l'aboutissement d'une stratégie et d'un rêve vers l'union de Nuestra América, notre Amérique, qui est un concept qui date de la décolonisation. On est en train de parler de tendance de fond, de tendance très lourde ici, d'une Amérique latine qui est en train de s'unir pour résister à la plus grande impérialisme et puissance militaire que le monde ait jamais connue. Et l'origine de tout ça, c'est le minuscule, petit et magnifique Cuba. Alors, on a l'habitude de conclure, mais moi j'ai l'habitude de conclure mes interventions en disant toujours la même chose, mais vous l'avez peut-être compris en filigrane, c'est que souvent les gens me disent ou me disaient avant, mais pourquoi est-ce que tu aides Cuba? Et moi je leur réponds à chaque fois, attention, c'est pas moi qui aide Cuba, c'est pas nous qui aidons Cuba, c'est Cuba qui nous aide. Cuba nous aide à comprendre, à espérer, à tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, je ne suis que solidaire avec eux parce que c'est vraiment eux qui m'aident. Voilà, merci pour votre attention. Je suis prêt à prendre toutes les questions si j'arrive à faire marcher mon micro.
Voilà, donc on remercie chaleureusement Victor Bédage pour cette introduction, cette première conférence. On va passer donc à la partie questions. Donc transmettez-nous vos questions, donc à Anthony et puis à moi. Alors il y a une première question que j'aimerais poser comme introduction, c'est puisque Victor a beaucoup parlé des docteurs et des médecins cubains qui vont dans le monde entier pour soigner des gens. Que peut-il nous dire de Che Guevara, qui justement lui était entre autres médecin et qui en tant que qui était adjoint évidemment de Fidel Castro et puis qui fait l'objet d'une campagne de dénigrement enfin depuis quelque temps avec un certain nombre de livres qui sont comment dire, parus pour m'accuser de diverses choses. Alors est-ce que vous pouvez répondre à bien quelques mots sur Che Guevara? Merci.
Quelques mots sur Che Guevara. Non, pour deux raisons. La première, c'est que Cuba, de Che Guevara, il y en a eu des à l'appel. Je sais pas pour diminuer le rôle du Che. C'est pour dire que cette révolution cubaine a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et avec ou sans le Che, la révolution cubaine s'est faite. Maintenant, tous ceux qui viennent le dénigrer comme ça, dénigrer un homme qui est allé se battre pour un pays qui n'était pas le sien, une cause qui n'était pas la sienne, qui a sacrifié une vie qui était toute tracée pour lui, médecin à Buenos Aires, d'une famille aisée, qui a risqué sa vie pour une cause qui lui paraissait juste, qui est même parti au Congo, qui est parti en Afrique, qui a décidé qu'il n'était pas fait pour s'asseoir derrière un bureau, mais partager son sort avec les malheureux de la terre, comme dit José Martí. J'ai juste envie de dire que ceux qui écrivent des bouquins sur le Che, vous savez quoi? Moi, je les invite à aller avec leur putain de bouquin et d'aller lire quelques pages dans une place de la Havane, quelconque, et voir comment il sera réussi, comment il sera reçu. Je parle pas des policiers du régime, je parle des Cubains eux-mêmes. Tous ces auteurs de ces bouquins qui sortent maintenant sont probablement les mêmes qui nous écriront dans 10 ans les mémoires de George Bush, le héros de je ne sais pas quoi, ou les mémoires d'un Tony Blair. Tout ça, c'est de l'esbrouffe et de la contre-propagande, comme on a eu créé les nouveaux philosophes à une époque, ou comme il s'agit de détruire l'icône, il s'agit de démolir le symbole. La vague réactionnaire est en marche, la contre-révolution est là. C'est normal, c'est de bonne guerre. Mais encore une fois, je mets au défi ces gens-là d'aller lire, ne serait-ce que certains extraits de leurs bouquins à la Havane et à la Havane, n'importe où en Amérique latine. Mais je dis n'importe où. Vraiment, n'importe où. Ce qu'on ne se rend pas compte ici, c'est qu'ici en Occident, c'est qu'on a une impression comme ça qu'il y a une sorte d'opinion partagée dans le monde sur Cuba. Faux. Sous ces choses qu'on entend, tous ces mecs comme ça qui se pointent, les Jacobo Machover, les Zoé Valdés, ces gens-là, ils arrivent à obtenir une certaine crédibilité en Europe pour une raison simple, c'est que toute la classe politique française et européenne d'une manière générale a perdu tous ses repères et toute sa culture. Le niveau intellectuel est tombé à un niveau absolument nullissime. La guerre en Irak, la guerre contre l'Irak, pardon, l'Irak, pardon, Libye, en est la preuve. Donc, qu'est-ce que vous voulez quand un abruti quelconque arrive et dit que le Che est un fou sanguinaire? Ben, il y aura toujours un abruti de gauche en face de lui qui lui répondra: Ah bon? Voilà.
Merci de votre réponse, Victor. Je vais laisser la parole à Anthony.
Oui, alors bonsoir, Monsieur Victor Dédage. Merci beaucoup pour la conférence. Donc, je voulais vous demander, puisque vous décrivez assez bien, alors je conseille à tout le monde votre ouvrage qui était Cuba est une île, mais malheureusement, il est très 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 difficile à trouver puisqu'il a quand même déjà quelques années. Mais bon, si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'acheter. Je voulais vous demander, vous décrivez Fidel Castro comme ayant été un judoka très efficace. Voilà, pour retourner un petit peu la force de l'ennemi. Comment jugez-vous la transition avec Raoul Castro? Est-ce que vous diriez la même chose? Est-ce qu'il est aussi efficace? Est-ce qu'il a fait des compromis? Voilà, comment se passent les dernières années cubaines? Merci.
Je crois que il est classique de vouloir les opposer ou les distinguer, Raoul, Fidel, Fidel, Raoul. Je crois pas qu'il puisse y avoir de distinction entre eux et tout ce que les médias peuvent raconter. Je parle de distinction importante et de fond, je veux dire de forme, évidemment. Raoul n'est pas le tribun que Fidel était, etc., etc. Mais des problèmes de fond, ils ont fait la guerre ensemble, ils ont fait la révolution ensemble. Ils ont fait la Sierra Maestra ensemble. La légitimité de l'un est la même que la légitimité de l'autre. Les gens disent que c'est le frère de Fidel qui lui a succédé. Je leur rappelle simplement, non, c'est le numéro 2 de la révolution qui lui a succédé, qui se trouve être son frère. Raúl Castro n'est pas quelqu'un qu'on est allé chercher comme ça. Il était avec Fidel dans l'attaque de la Moncada, il est allé en prison avec lui, ils sont allés en exil ensemble au Mexique, ils sont revenus avec le bateau Granma, ils sont montés dans les montagnes de la Sierra Maestra, ils sont revenus victorieux sur la Havane. Donc Raúl Castro, c'est pas le frère de Fidel Castro, c'est le compagnon dès l'origine de Fidel Castro qui se trouve être son frère. C'est important parce que Fidel a d'autres frères qui n'ont absolument aucun poste, aucun charge particulier à Cuba, et d'ailleurs ce n'est pas le genre de Cuba à ce que les membres de la famille occupent des postes particuliers. Je vous mettrai au défi de me trouver un autre Castro de la famille qui occuperait un poste quelconque d'importance à Cuba. En fait, le problème, c'est le problème de lecture, il est que la transition entre Raoul et Fidel a eu lieu à un moment historique important. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise économique, quoi. Ce qui fait que Raúl Castro est arrivé avec l'obligation de prendre des mesures, bonnes ou mauvaises, peu importe, je laisse ça au débat entre gauchistes qui aiment bien donner des leçons aux Cubains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la méthode de travail plus que la solution qu'ils trouvent. Et je pense qu'il y a eu des décisions terribles, difficiles à prendre, qui ont donné lieu encore une fois à des débats dans tout le pays, à des réflexions approfondies, qui pourraient d'ailleurs, qui ne sont pas, qui ne sont, qui n'ont pas un caractère abandon idéologique. Ce sont des tentatives tactiques pour essayer d'améliorer la situation économique dans une condition donnée. Parce que souvent, on juge Cuba comme si Cuba avait une marge de manœuvre gigantesque. C'est-à-dire que Cuba, si elle voulait, pourrait joyeusement, en sifflotant un petit air, prendre la route du socialiste, et que si elle ne le fait pas, oh zut alors, c'est parce que les Castro sont pas véritablement des révolutionnaires, comme diraient certains trotskistes. Non, 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 puisqu'ils font ça, mais bon sang de bonsoir. avec le blocus, qui est terrible, avec tout le contexte d'agressivité, le problème de la crise générale, Cuba en est victime, il n'y a pas de raison qu'elle n'en soit pas. La marge de manœuvre de Cuba est relativement minime, même pas relativement, est très minime. C'est-à-dire que Cuba n'a jamais réussi à faire réellement ce qu'il voulait, mais ils ont toujours eu à trancher entre des possibles, des choix, des possibilités relativement restreintes. Donc, l'image d'un Raúl Castro qui viendrait corriger le trop de socialisme imposé par son frère, son prédécesseur, en libéralisant l'économie, non. Non, non. C'est un choix qui a été fait après débat. D'ailleurs, quand on parle de libéralisation à Cuba aujourd'hui, les gens ont tendance à imaginer le libéralisme là-bas appliqué ici. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas dans le même modèle économique et social. C'est-à-dire que perdre son emploi à Cuba n'a pas le même impact qu'ici. Quand vous avez votre hébergement, votre logement qui est gratuit, quand vous avez les minimums sociaux qui sont garantis, disons que la sérénité est de mise. Et ça, je l'ai constaté. Il n'y avait pas un air de panique ni rien de tout ça. Ensuite, il a beaucoup été exagéré sur le terme de libéralisation et de privatisation. On a confondu perdre son emploi et passer du secteur public à un secteur privé. C'est vrai que Raúl Castro et même les Cubains, les dirigeants cubains ont dit, je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas l'intérêt à avoir des coiffeurs, par exemple, fonctionnaires de l'État. Bon, c'est vrai qu'on peut se dire, un coiffeur, il peut exercer dans un. Mais on oublie souvent de dire que ces gens qui décident de devenir coiffeurs, ben les Cubains, les autorités cubaines ont débloqué des fonds pour les aider à démarrer leur business. Coiffeur ou autre, hein, il y a eu 178 millions de dollars débloqués pour aider les gens à se lancer, pour ceux qui voulaient, hein, ceux qui voulaient se lancer dans des professions libérales ou indépendantes, des petits métiers comme ça. Quant aux grandes structures et grandes entreprises, grandes entités économiques, il y a eu simplement un changement de statut, c'est-à-dire que personne ne se retrouve à la rue, telle usine ou telle branche d'industrie qui appartenait à l'État ne passe pas entre les mains d'un capitaliste privé et de fonds privés, elle devient une coopérative, donc secteur privé. Ça n'a absolument rien à voir avec une libéralisation économique au sens où on l'entend ici, c'est-à-dire que ça. Je vois vraiment pas comment les Cubains pourraient en arriver là. Il faut pas oublier que leur souvenir, leur histoire du capitalisme, est suffisamment fraîche avec l'expérience de 50 ans de lutte. Je pense pas que les Cubains aient la mémoire si courte, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai exactement répondu à la question. Raoul est plus pragmatique, peut-être, dans son style, mais je ne crois pas qu'il soit vraiment différent dans ces options. L'important ici, c'est de bien considérer, c'est est-ce que c'est une mesure qui a été imposée? Est-ce que c'est une mesure qui est tombée de haut? Est-ce que les gens se sont réveillés un matin sous le communisme, se sont réveillés sous un capitalisme ou un système chinois? La réponse est non. Non, non et mille fois non. C'est un choix qui a été fait, qui a été débattu et qui pourrait être défait si les Cubains décident qu'il faut le défaire. Après tout, ce n'est pas la première fois que les Cubains prennent des décisions démocratiquement, estiment qu'ils se sont trompés ou qu'il y avait mieux à faire, et reviennent sur leurs mesures. Après tout, c'est la vie. Ce qui est important ici, c'est que c'est le peuple qui a été consulté, le peuple a décidé, le peuple a été, acteur de ce choix.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole à un de nos auditeurs à présent. Donc ADN, je t'en prie, pose ta question.
Bonjour Monsieur Vdedage. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention, votre conférence. Pour reprendre rapidement ce que vous avez dit, donc les gens ici, ils croient beaucoup à la propagande. Donc, comme vous avez dit, on a l'impression qu'en fait le pauvre, en fait le pauvre à Cuba par exemple, ou dans tous les pays du tiers-monde qui sont critiqués comme des dictatures. En fait, le pauvre, il est plus heureux qu'ici, en fait. Il a plus de droits. Par exemple, si on prend l'exemple de la Libye, le logement, c'était un droit. Ici, comme vous dites, le pauvre, il est vite à la rue, il est vite quand il perd son travail, c'est catastrophique. Et donc, en fait, ma question pour aller droit au but, c'est vu que je vois que vous tenez Cuba très à cœur pour vous, vous estimez sur quelle échelle la résistance de Cuba par rapport aux États-Unis? Parce que, comme vous savez, vous avez dit que c'est les seuls à nommer les États-Unis de nom, mais l'Iran, il nomme aussi les États-Unis de nom. La Syrie aussi, il y a Chavez aussi, donc c'est pas les seuls résistants, mais à votre avis, c'est sur vous, pour vous, c'est la des résistants ou c'est voilà, c'est en fait, c'est la question, c'est sur quelle échelle en fait. Voilà, merci monsieur.
Si je me souviens bien de mes propos. Alors merci à tous ceux qui me remercient pour la conférence, mais comme j'ai le micro coupé, je ne peux pas leur répondre. De go, merci à vous d'être là. Donc je le dis une fois pour toutes à tout le monde. Merci à vous. Pour revenir à la question cubaine, donc ce que je disais sur Cuba, c'est qu'en fait, Cuba présente la seule résolution. Je parle de la résolution des Nations Unies. Je ne dis pas que l'Iran ne nomme les États-Unis. Mais il n'y a que Cuba qui présente chaque année une résolution où les États-Unis sont, où on demande à l'Assemblée générale des Nations Unies de condamner les États-Unis. Voilà. Je crois qu'il n'y a que Cuba qui fait ça, qui ose le faire. Maintenant, la question, est-ce que Cuba est sa position dans l'échelle de résistance? C'est une intéressante question. Je vais vous dire d'abord. Pour des raisons historiques, Cuba est en résistance avec les États-Unis depuis 150 ans. Ce n'est pas le cas de l'Iran. Il ne faut pas oublier que Cuba a eu deux, trois, quatre guerres de décolonisation, dont deux où les Américains sont intervenus. Il ne faut pas oublier qu'il y a une base militaire américaine sur l'île de Cuba, la base de Guantanamo. Elle n'est pas arrivée par hasard, elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas arrivée de nuit, etc. Cette base a été implantée et les Cubains n'ont jamais pu l'évacuer. En fait, beaucoup de gens datent la révolution cubaine au 1er janvier 1959, la date où sont entrés les Barbudos à La Havane. C'est une vision de l'histoire. Mais ma mise de vision à moi, c'est que le 1er janvier 1959 n'est pas la date de départ de la révolution cubaine, mais la date qui marque la fin de la colonisation américaine de l'île de Cuba. Après 150 ans de lutte et des guerres terribles, à titre d'exemple, savez-vous que les premiers camps de concentration jamais créés l'ont été créés, instaurés à Cuba, justement en lutte pour punir les Espagnols, pour punir les indépendantistes cubains? Les camps de concentration ont été inventés à Cuba. La révolution cubaine, et quand vous écoutez les dirigeants cubains, toute leur lutte et tout leur discours est situé et placé dans une perspective historique constante. Les références à tous leurs prédécesseurs. Vous connaissez peut-être la formule, si nous sommes grands, c'est parce que nous sommes juchés sur les épaules de géants. S'il y avait un cas précis où cette phrase aurait un sens, c'est à Cuba. C'est-à-dire que ce sont des générations de militants nourris des expériences les unes des autres, nourris de leurs échecs, je répète, 150 ans de lutte, 150 ans d'organisation, avec des héros nationaux qui viennent d'autres pays. Beaucoup des héros nationaux à Cuba sont même pas des Cubains, ce qui renforce d'ailleurs leur sentiment internationaliste, parce qu'ils disent qu'ils ont une dette envers les étrangers qui sont venus nous aider, et nous ne devons pas hésiter à aller en aider d'autres. Donc, oui, la définition de camp de concentration, ben, pas de camp d'extermination, je parle de camp de concentration, on est d'accord. Je vois que la question arrive sur Mais cela dit, l'extermination a eu lieu parce que Christophe Colomb a débarqué en Amérique latine sur l'île de Cuba. 2 ans plus tard, il n'y avait plus un seul indigène vivant d'origine sur l'île. Et ensuite, l'armée d'occupation espagnole, à un moment donné, il y avait un soldat espagnol pour 6 habitants cubains. C'est pour vous dire si la résistance était violente et terrible. Et encore une fois, les Américains. Il faut savoir aussi que les Américains ont toujours considéré que Cuba faisait partie naturellement. C'est-à-dire que c'est pas George Bush, c'est même pas Bill Clinton. On remonte quasiment au premier président, au pluriel président américain, qui ont toujours considéré que toute cette arc du continent avec la Floride et Cuba devait rentrer dans l'Union. C'est-à-dire que ça a toujours été, et puis pour une raison comme ça, l'Espagne n'a jamais voulu lâcher Cuba. Ils ont accepté de vendre la Floride, d'autres États, mais pas Cuba. Et ça, les Américains, ils ont toujours eu ça un peu à travers la gorge. Alors, les Cubains sont aussi probablement les premiers résistants pour une raison très simple. Ce sont probablement de toutes les classes dirigeantes au monde, celles qui connaissent le mieux la nature cubaine. Ah, la nature des États-Unis. C'est-à-dire que ils savent qui et comment fonctionnent les États-Unis. Ils peuvent pas en être autrement. Tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé de la force du judoka pour utiliser la technique du judoka pour retourner la force de l'adversaire contre lui. Les Cubains sont passés maîtres en l'art de ça, mais c'est pas une maîtrise qu'ils ont appris comme ça au petit matin du 1er janvier 1959. Non, c'est quelque chose qui a été acquis petit à petit, qui rentre culturellement. C'est leur savoir vis-à-vis de ce monstrueux entité du Nord. C'est donc une expérience doublée d'une proximité, doublée d'une détermination, doublée d'un pragmatisme qui fait que oui, je pense qu'honnêtement, que Cuba est le navire amiral de la résistance contre les États-Unis, en tout cas cet États-Unis-là, cette version impérialiste des États-Unis. C'est d'ailleurs pas pour rien, et c'est pas évident parce que on le perçoit pas forcément d'ici vu que les médias n'en parlent pas, mais c'est pas pour rien que la classe politique américaine éprouve et montre une telle haine à l'égard de Cuba. Je pourrais ici passer des heures à vous énumérer les mesquineries, mais parfois pathétiques. Le refus de vendre un médicament pour un enfant de 4 ans qui va perdre un œil, je l'ai vu cet enfant-là. Les Cubains ont demandé une autorisation spéciale à Obama juste pour lui sauver un œil. Obama qui signe pas. Je veux dire, c'est doublé d'une méchanceté, d'une aigreur, c'est une haine constante. Et cette haine, elle s'explique pas simplement par la présence d'un régime communiste. Non, c'est plus compliqué que ça. Et entre nous soit dit, et gardez ça pour vous, je pense, moi, que les États-Unis, la classe politique, hein, la classe dirigeante des États-Unis, haïssent Cuba à ce point-là parce qu'ils savent que les Cubains savent. Ils savent que les Cubains savent qui ils sont en réalité. Et ça, comme tout pervers qui se respecte, le pervers n'aime pas quelqu'un qui dit aux autres « c'est un pervers ». Et il redirige sa colère contre celui qui l'a démasqué. Et je pense que c'est vraiment pour ça, ça c'est mon analyse complètement personnelle, je pense que c'est vraiment pour ça, que les États-Unis éprouvent une telle haine, mais c'est une rage.
Alors, excusez-moi, monsieur Dédage, il y a le micro qui tout d'un coup vient de devenir très bas.
Ah,
là, c'est bon. Ouais.
C'est revenu?
Tout à fait, désolé pour l'interruption.
Non, je vous en prie, je ne sais pas depuis quand. Donc voilà, c'est. Donc quand vous me dites, ne serait-ce que par l'ancienneté, l'antériorité, oui, c'est Cuba qui est la pile de la résistance. Et d'ailleurs, je pense que si vous posiez la question aux Iraniens, aux Syriens, vous savez que j'ai rencontré des Cubains qui ont manié des chars syriens sur les hauteurs du Golan dans la guerre contre Israël, soit dit en passant. Ils ont été partout. Partout, les Américains, ils sont venus, il y a eu au moins un ou deux Cubains en face. C'est assez incroyable. J'ai rencontré des Palestiniens à Cuba, qui ont été soignés, qui ont reçu des formations. Il y a eu des Cubains en Érythrée, en Éthiopie, en Algérie, en Afrique, un peu partout, en Amérique latine, on a des conseillers. Non, non. Il y a vraiment une bonne raison.
Je vais à présent relayer une question d'un auditeur, Michel, qui demande justement, puisque vous évoquiez à l'instant, enfin vous évoquiez tout à l'heure Guantanamo. Pouvez-vous nous parler un petit peu du statut de Guantanamo? Pourquoi cette base militaire reste implantée sur le sol cubain et pourquoi le pouvoir cubain n'arrive pas à se défaire de cette base?
Pourquoi le pouvoir cubain n'arrive pas à se défaire de cette base? C'est très simple. C'est parce que les Américains ne veulent pas partir. Et que les Cubains n'ont pas vraiment les moyens de les faire partir. Et que les Américains, vous imaginez bien l'excuse qu'ils trouveraient pour s'en prendre à Cuba. Alors comment la base est arrivée là? C'était l'époque où la Cuba n'était qu'une vague colonie qui n'osait pas dire son nom, une colonie américaine. Où, lors d'une soi-disant libération par les États-Unis du colonialisme espagnol, ils sont venus libérer et aider, comme ils font semblant de le faire de temps en temps, les pays, hein, n'est-ce pas? Ils ont imposé ce qu'on appelle l'amendement Platt, Platt, c'est fin du 19e siècle, si je me souviens bien. Là, j'ai un trou quant aux dates. Et cet amendement Platt avait des clauses qui étaient incluses dans la Constitution cubaine, qui stipulait plusieurs choses, que par exemple que la Constitution cubaine reconnaissait le droit aux États-Unis d'intervenir militairement à tout moment pour rétablir l'ordre dans l'île. C'est quand même une étrange relation, c'est pour vous dire si c'est la proximité compte beaucoup dans cette histoire. Et aussi que le gouvernement donc de l'époque accordait différentes ressources naturelles aux États-Unis et une base militaire située à Guantanamo avec un bail de location de 99 ans, le bail étant de 3 000 dollars par an, et tacitement reconductible tant qu'une des deux parties était d'accord pour le faire. Ça veut dire en gros que tant que les Américains veulent rester, ils restent. Ce qui évidemment ne plaît pas aux Cubains. Alors les Cubains, ils font ce qu'ils peuvent pour éviter déjà qu'il y ait des incidents. Il y a une sorte de no man's land qui entoure cette base, où on ne peut pas s'en approcher pour ne pas créer d'incidents fâcheux. Fâcheux. Et les Américains leur envoient consciencieusement chaque année un chèque de 3 500 dollars correspondant au loyer que Fidel Castro range soigneusement dans un tiroir qu'il n'encaisse évidemment jamais. Et puis voilà, les Cubains réclament évidemment à cor et à cri chaque fois que l'occasion leur est offerte que les Américains rentrent chez eux. Mais l'histoire a montré que lorsque les Américains s'installent quelque part, et ceci est un message personnel aux Libyens, que c'est pas dans leur habitude de partir de leur propre volonté. Ah,
Merci.
le bail se termine dans très bientôt, 99 ans, on doit y être, dans pas longtemps, dans quelques années, mais de toute façon, les Américains, comme j'ai dit, le bail est tacitement reconductible. Donc, en fait, à la fin du bail, si les Américains ne disent pas, on s'en va, le bail repart. Aussi simple. C'est ce qui est écrit, mais bon. À ce stade-là d'agressivité et d'animosité, le bail, à mon avis, n'est qu'une question secondaire, un peu formaliste, blablabla, quoi. Les Américains ont une base dans un pays qui n'en veut pas et refusent de partir. Voilà. Bail ou pas.
Donc je relaie une question maintenant de Farid qui me semble intéressante. Il demande quelles sont les relations de Cuba avec la Russie, notamment face à un Occident qui est aujourd'hui de plus en plus agressif, comme on l'a vu en Libye et comme on le voit à l'heure actuelle pour la Syrie et pour l'Iran.
Vous parlez de relations économiques, diplomatiques, on va
Ouais,
dire.
voici essentiellement diplomatique là pour le coup.
D'abord, j'aimerais revenir sur la période Perestroïka et compagnie. Parce que quand Gorbatchev a été visiter le Cuba quelques années avant la chute du mur de Berlin, l'intelligence politique des dirigeants cubains leur en fait tout de suite comprendre, très, très rapidement comprendre que c'en était fini. de l'Union soviétique. À tel point que Fidel Castro avait annoncé, et les gens n'avaient pas complètement percuté à l'époque, il avait annoncé devant le Congrès des femmes cubaines, qui est une sorte de syndicat, qui travaille sur les conditions de la femme. Il a eu cette phrase: je vois qu'il y a beaucoup de femmes ce soir qui ont mis des belles robes pour venir à ce congrès. Je leur conseille d'en prendre soin parce que bientôt ils n'auront pas l'occasion d'en racheter. Quelque chose, une phrase comme ça. Et il a annoncé la crise économique qui allait venir parce qu'il savait que la chute de l'Union soviétique allait signifier la perte des marchés, etc., etc. Et il a eu raison. Ensuite est arrivée la loi Helms-Burton, dont les médias ne parlent jamais, qui est une loi extraordinaire américaine, votée en 96. Et cette loi Helms-Burton, elle conditionne parmi, elle fait des dizaines et des dizaines d'articles, hein, c'est grosso modo un plan d'occupation de Cuba. Voilà. Mais parmi les clauses, les premières clauses de la loi Helms-Burton, il y a celle-ci. Il faut l'avoir lu pour le croire, hein. Il y a beaucoup d'articles là-dedans. On pourrait faire une émission pratique que sur la loi Helms-Burton. C'est une loi très intelligente pour comprendre la politique étrangère des États-Unis parce que c'est un condensé de tout le mal qu'ils ont dans leur tête. Et dans les premières clauses de cette loi Helms-Burton, il y a la phrase suivante: que toute l'aide aux anciens pays de l'Est est conditionnée par leur rupture des relations économiques et diplomatiques économiques avec Cuba. C'est pour vous dire l'importance que les États-Unis, pardon, accordent à la question cubaine. Conditionner l'aide aux anciens pays de l'Est à la rupture de leurs relations avec Cuba. Alors, les premières années qui ont suivi, avec tout l'opportunisme des gens qui ont suivi la chute des pays de l'Est, et je ne vais pas faire le tour de tous les dirigeants, ben les relations entre Cuba et la Russie étaient, on va dire, moyennes. D'autant plus que certains dirigeants russes exigeaient le remboursement immédiat des dettes que Cuba avait contractées. Cuba répondant que le calcul de la dette que faisaient les Russes à ce moment-là ne voulait rien dire, parce qu'une bonne partie du commerce se passait en troc. Enfin bref, il y avait même une discussion sur le montant, et les choses se sont un petit peu envenimées. Et jusqu'à ce que les Russes retirent d'ailleurs leur dernière base d'écoute, autre exigence de la part des États-Unis, et que les Cubains n'ont pas apprécié du tout. Cela dit, parce que les Cubains font de la politique et pas du gna gna gna, Fidel Castro a toujours mis une pointe d'honneur à ne pas en faire, si j'ose dire, une affaire personnelle entre l'URSS ou l'ex-URSS. C'est-à-dire que Fidel Castro a toujours dit, insisté, répété dans tous ses discours: nous serons toujours reconnaissants envers ce peuple qui a été le seul à venir nous tendre la main dans les situations difficiles. Il parle évidemment au moment de la révolution cubaine, lorsque les États-Unis ont tenté d'instaurer le blocus et que la Russie, plutôt mollement d'ailleurs, et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, sont venus prêter main forte à Cuba, premier territoire libre de l'Amérique latine, zone géographique que les Russes, les Soviétiques, à laquelle les Soviétiques ne s'intéressaient pas plus que ça. Donc il y a toujours eu une sorte de respect historique, pour des raisons historiques. Et je crois que ce respect que les Cubains ont toujours montré, donc tous les ivrognes, dirigeants ivrognes passés de la Russie, ils ont pu lui raconter et dire ce qu'ils voulaient, quoi. Les Cubains n'en sont jamais rentrés dans le jeu. Ils ont dit, comme ils font toujours d'ailleurs, ils ont dit ce qu'ils pensaient, ils ont toujours exprimé leur gratitude. Et petit à petit, bah, finalement, avec les changements, avec les changements de la donne, les relations commencent à s'améliorer. Mais cela dit, parce qu'il faut apprendre les leçons de l'histoire, et Cuba, on en a appris une, c'est qu'il faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, et moi, on me l'a dit X fois, hein, nous ne reproduirons plus jamais l'erreur de nous fier à un seul partenaire. Ils ne font, je sais qu'ils ne font absolument pas confiance à l'Europe, par exemple, parce que beaucoup de gens leur disent, à une époque, leur disaient, oui, vous pouvez compter sur l'Europe pour contrer les États-Unis au début de la construction européenne. Et je me souviens, les Cubains disaient, vous rigolez ou quoi? Si vous croyez qu'on va faire confiance aux Européens pour contrer les États-Unis, alors c'est que vous n'avez rien compris à l'Europe. Et ils avaient raison, bon sang de bonsoir, encore une fois. Combien ils avaient raison. Combien on était naïfs et qu'on croyait. Je rappelle que c'était un des arguments de vente de l'Europe à pas mal de militants de gauche, c'est que l'Europe constituerait un contrepoids aux États-Unis, encore un mensonge historique. Elle ne constitue aucun contrepoids à quoi que ce soit. Ce n'est devenu qu'un allié de plus. Bref. Donc en fait, les Cubains, ils acceptent ce qui vient, mais je crois qu'ils vont pas chercher maintenant. Si c'est autrement dit, comme un amoureux qu'on a abandonné, ben c'est à l'autre de faire le premier pas maintenant. Ben, et les Cubains cherchent avant tout, en fait, l'unité de l'Amérique latine pour des raisons de proximité géographique et culturelle évidente. Et ensuite, une diversité le plus large possible. Ne pas compter sur le pétrole, uniquement sur le pétrole du Venezuela, parce que si jamais le Venezuela, ne pas compter uniquement sur quoi que ce soit de qui que ce soit. Et d'ailleurs, ils sont obligés, ne serait-ce qu'à cause du blocus américain, qui encore une fois est quelque chose d'assez terrible, très compliqué à contourner pour eux. C'est un travail épuisant de le contourner. Donc, les relations sont cordiales à ma connaissance, sans plus. Les Cubains ne cherchant pas particulièrement, à ma connaissance, à les renforcer, disons qu'ils laissent le temps au temps.
Je vais relayer maintenant une question d'un auditeur donc, qui demandait si vous pouviez nous parler de ce lobby de notables cubains donc anti-castristes, ceux que Fidel Castro appelle les gusanos, je crois les vers de terre. Alors ces gens qui sont en général réfugiés en Floride, à Miami, et qui militent très très activement contre le lobby contre le pouvoir cubain.
Ah ça, c'est un vrai roman. C'est un vrai roman parce que ça constitue. Alors, il faut d'abord distinguer une chose et je vais faire une petite marche arrière. Parmi les mesures contre le Cuba, on parle souvent du blocus, des mesures économiques, mais il y a une loi américaine qu'on oublie souvent de mentionner et j'invite tous les auditeurs à faire preuve d'un peu d'imagination. Ceux qui ont lu le livre Cuba est une île connaissent l'exemple parce qu'il est en introduction. Cuba pour les nuls, mais je vais le reprendre ici. Donc, j'invite tous les auditeurs à apprendre, imaginer comme ça, choisir au hasard un pays du tiers-monde, quel qu'il soit. Peu importe. Donc, une fois qu'ils ont choisi le pays qu'ils connaissent le mieux, ou même au hasard comme ça, je les invite à découper ce pays selon les pointillés, selon les frontières, soulever ce pays délicatement, et de le poser à 150 km de la France. Voilà. C'est fait. Maintenant, vous dites à l'Assemblée nationale française de voter une loi qui dit ceci. Tout ressortissant de ce pays du tiers-monde qu'on vient de découper et pose 150 km de la France, tout ressortissant donc de ce pays qui poserait le pied en France aura automatiquement une carte de séjour, une pension, et la sécurité sociale. À votre avis, qu'est-ce qui se passerait? On peut imaginer qu'il y aurait une sorte de vague d'assaut vers la France. Et c'est la situation que connaît Cuba en fait. Cuban Adjustment Act, qui est une loi de 1964, stipule exactement ce que je viens de vous dire. Donc il y a une volonté affichée de drainer les cerveaux et de vider la population cubaine, tout en créant les conditions économiques les plus difficiles possibles et tout en tentant de créer une émigration spectaculaire par essence, puisque c'est sur une île, donc il n'y a qu'une mer à traverser. Spectaculaire, je dis ça pourquoi? Parce que les 1 million de Mexicains qui tentent de traverser le mur que les Américains ont construit, comme c'est moins spectaculaire, on en parlera moins, et il y aura moins de caméras que les Cubains qui prennent la mer. Tout ceci a son importance. Pourquoi? Parce que les Cubains qui fuyaient, si je puis dire, c'est comme ça qu'on les présentait, mais les Cubains qui tentaient leur chance vers un pays qui leur chantait le chant des sirènes. Certains Cubains y croyaient. Pourquoi pas? On peut pas avoir 100% de la population sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Ça a créé donc un afflux d'immigration. Mais il faut d'abord préciser une chose, c'est que en termes d'immigration, de flux migratoire, je rappelle que Cuba et les États-Unis, ça a toujours été quelque chose de proche, géographiquement, mais à la période de comment on appelle ça, quand il y a l'interdiction de l'alcool, ça y est, je commence à fatiguer, prohibition, Cuba était devenu le bordel des États-Unis. Les Américains avaient des résidences secondaires et la bourgeoisie cubaine avait des maisons en Floride et était installée en Floride. Donc c'était la porosité, si vous voulez, entre les deux a toujours existé. Lorsque la révolution cubaine donc est arrivée et que Fidel Castro a montré qu'il n'était pas venu là pour rigoler et qu'il n'allait pas devenir un simple chef haillon au solde des États-Unis comme les États-Unis espéraient, la bourgeoisie s'en est allée. Elle est et rejoindre ses résidences secondaires ou principales d'ailleurs en Floride et a constitué effectivement un groupe et un lobby qui, pour des raisons géopolitiques, j'ai dit que Cuba avait une importance extrême aux yeux des États-Unis, ce lobby qui s'est constitué dans les années début des années 50, 60, pardon, est devenue très puissante. On dit d'ailleurs que cette lobby est le deuxième lobby en termes d'influence, juste après évidemment le lobby pro-israélien. Donc ce lobby s'est constitué à cause de l'importance de Cuba aux yeux des États-Unis. Je pourrais vous sortir des citations d'ailleurs, tiens, parce que qui peut mieux le dire qu'un enfoiré américain? Avril 1960, le secrétaire d'État, c'est-à-dire l'équivalent de Hillary Clinton à l'époque. Il faut utiliser au plus vite tous les moyens possibles pour affaiblir la vie économique cubaine, afin de provoquer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement. Kennedy avait dit, j'essaie de retrouver sa phrase, Cuba est la première priorité du gouvernement américain, tout le reste est secondaire. Aucun effort ne doit être négligé, avec tous les moyens nécessaires, les hommes nécessaires et le temps qu'il faudra. Donc voilà, ça c'est quelques citations comme ça, etc. Donc forcément, le lobby cubain anticastriste à Miami a été bien choyé et je vais vous dire, elle lui a bien rendu. C'est-à-dire qu'elle a été tous les coups tordus aux États-Unis, en commençant par l'assassinat de Kennedy, l'affaire de Watergate, le scandale du contrat Iran-Contra-Gate. Tous, il y a des Cubains anticastristes qui sont mouillés dans ces affaires-là. C'est véritablement une classe, une catégorie de la population qui sert d'homme de main aux sales coups du gouvernement américain. La révolution contre le Nicaragua, dirigée et encadrée par des castristes anti-cubains. Le coup d'État au Chili, ils y étaient. Ils étaient partout, ils sont partout. C'est un peu les Israéliens de l'Amérique latine, si je puis dire. D'ailleurs, ils entretiennent d'excellentes relations. À tel point que Miami est la seule ville au monde où s'est tenue une manifestation en faveur de la guerre en Irak. C'est probablement la ville la plus réactionnaire au monde, à cause de cette classe politique anti-cubaine qui sont vraiment extrémistes. Et je crois qu'ils ont une autre particularité, c'est qu'ils ont parfois des problèmes avec la réalité, à savoir qu'ils se revendiquent des héros nationaux cubains, au même titre que les Cubains sur l'île, comme José Martí, alors que José Martí a passé son temps à dire aux Américains qu'il fallait se méfier, à dire aux Cubains qu'il fallait se méfier des Américains, et ben les Cubains de anticastristes trouvent le moyen de se revendiquer de José Martí, qui les aurait, à mon avis, détestés cordialement. La seconde chose par rapport, à part le pouvoir politique et le lobby, finance, la puissance de l'argent, l'influence politique qu'ils ont, il y a aussi le fait qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'organisations paramilitaires. Faut pas oublier que le FBI avait déclaré que ces mouvements paramilitaires anticastristes en Floride étaient considérés par le FBI comme les organisations terroristes les plus dangereuses du continent. À Floride, il se trouve qu'ils opèrent à visage découvert, qu'ils vont faire des raids à Cuba et qu'ils reviennent et qu'ils s'en vantent à la télévision cubaine. C'est un cas unique au monde, je crois, où un groupe paramilitaire peut violer les lois, ouvertement les lois du pays qui les accueille, parce que la loi américaine normalement interdit d'utiliser les États-Unis comme base d'actes terroristes. Mais ça fait rien. Il s'agit de Cuba, donc plus rien ne compte. Et c'est pas pour rien, je pense moi, mais c'est une analyse maintenant un petit peu personnelle, là, que je suis en train de dire, c'est pas pour rien que George Bush a été élu en premier lieu en Floride. Ceux qui se souviennent de comment ça s'est passé, eh bien, moi, ça m'étonne pas que ce soit la Floride qui a fait élire George Bush. Pourquoi? Un, le gouvernement de la Floride s'appelle Jeb Bush, de la famille. Et lorsque George Bush, lors de son premier mandat, a pris le pouvoir, j'avais fait sur un site de Solidarité avec Cuba à l'époque une page qui s'appelait La Garde Noire de George Bush, parce que je me suis souvenu de ce que les Cubains ont tout de suite dit lorsque Bush est arrivé au pouvoir et qu'il a nommé ses premiers conseillers. Les Cubains ont dit, il va se passer quelque chose de grave. Pourquoi ont-ils dit ça? Alors que les médias occidentaux n'avaient rien vu, tous les gens que George Bush a fait monter dans son administration et dans son entourage, tous pratiquement étaient connus et très bien connus en Amérique latine et notamment des Cubains. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient déjà fait preuve de leur bassesse, de leur perversité, de leur méchanceté, si je puis dire, en Amérique latine. Negroponte, qui était devenu l'ambassadeur pendant un temps en Irak et qui est actuellement le dirigeant du NSA, le service qui chapeaute tous les services secrets, est un ancien ambassadeur au Honduras où il couvrait les escadrons de la mort. John Bolton, qui s'occupait de Cuba, des questions d'Amérique latine à une époque, qui est actuellement l'ambassadeur auprès des Nations Unies, était aussi quelqu'un de très 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 connu. Scott Abrahams, qui s'occupait des questions du Moyen-Orient, était l'ancien ambassadeur au Salvador. Colin Powell, évidemment, dans le scandale du Iran Contra Gate et du Nicaragua, c'est-à-dire que on a assisté, si je puis dire, à une Amérique latinisation de la géopolitique américaine. C'est-à-dire toutes les saloperies qu'ils faisaient dans leur arrière-cour, jusqu'à là, tranquillement, sans que les médias s'en offusquent, et bien, tous ces gens-là ont pris le pouvoir dans une sorte de mini coup d'État, et en fait, se sont simplement mis à l'échelle mondiale, se sont mis à appliquer les méthodes et les stratégies qu'ils appliquaient avant en Amérique latine. Donc l'importance de la résistance d'Amérique latine, pour moi, elle est double, c'est parce qu'ils sont issus et ce sont les premiers à avoir connu cette fameuse qu'on appelle mondialisation actuellement, mais la mondialisation, si je peux dire, ils l'ont connue au niveau continental. L'attaque contre l'Irak que tout le monde a en mémoire, eh bien, ils l'avaient déjà fait à moindre échelle, mais le Panama, qu'est-ce que ça a été sinon? Cette façon de faire, cette façon de mentir, cette façon de balayer tout le droit international pourvu que leurs intérêts soient sauvegardés, c'est quelque chose que les Latino-Américains connaissent bien. Et c'est d'ailleurs ce qui explique leur unité face à ce géant, parce qu'ils connaissent leur adversaire, sauf que nous, ici, on a encore du mal à bien comprendre la nature véritable de l'ennemi. Donc ce pouvoir cubain est un lobby ultra-puissant. Ultra-puissant parce qu'il a réussi à faire voter cette fameuse loi Helms-Burton, qui a été quand même une sacrée, je veux dire, le vote aux Nations Unies dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la condamnation totale de tout le monde, c'est en partie une réaction à la loi Helms-Burton. Je pourrais peut-être en dire un mot, je ne sais pas si j'ai le temps, etc. Mais cela dit, une fois que j'ai fait peur à tout le monde avec ce lobby fasciste cubain en Floride, il se passe en même temps un phénomène, un autre phénomène, c'est que l'immigration cubaine que les Américains ont accueillie à bras ouverts pendant 20-30 ans, venez à nous, etc. Ben, ils ont mis du temps à comprendre qu'en fait, les gens qui venaient en bateau, comme ça, ben, c'était pas forcément tous des anticastristes. Il y a beaucoup de Cubains qui venaient pour des raisons économiques. Et qu'ils étaient loin de se retourner, contre leur pays d'origine. Contrairement à ce que les Américains pensaient qu'ils allaient faire. À tel point que, pendant des années, ces Cubains-là n'osaient pas prendre la parole parce que la Floride était quand même tenue par une mafia politique, paramilitaire, criminels, Et que bah, petit à petit, les lois de des nombres, les lois du nombre, fait qu'ils se trouvent de plus en plus en minorité, ces gens-là, les extrémistes. Il paraît que les derniers sondages dans la Floride donnent une pourcentage majorité en faveur de la levée du blocus, ce qui fait quand même tache d'huile au sein de la communauté. J'allais presque dire que dans ma tête à moi, l'image, c'est que pendant que la population à la base commence à les pousser dehors, ces politiciens véreux, bah, ceux-là se font, sont promus à des échelons plus élevés où ils peuvent faire plus de dégâts, mais en s'éloignant un peu de leur base. Bon, c'est schématique ce que je viens de dire. C'est pas évident, mais je sais que par exemple, il y a eu des manifestations de solidarité avec Cuba pour la première fois ces 4 ou 5 dernières années, notamment pour les cinq, les fameux cinq qui ont été emprisonnés, les cinq Cubains, chose qu'on n'avait pas vue avant et qui était d'ailleurs impossible. Mais ils sont très puissants, très puissants. Je peux vous dire que moi qui m'intéresse à l'Amérique latine depuis des années, des années, des années, on les a retrouvés partout. Et leur sympathie à l'égard d'Israël, d'ailleurs, est totale, et leur solidarité. Là, si on devait parler d'un axe du mal, moi, à titre personnel, moi, l'axe du mal, le véritable axe du mal, il passe par l'extrême droite anticastriste, la classe dirigeante américaine et le sionisme.
Très bien, donc je vais laisser la parole à un auditeur, donc Pierrick, je lui donne la parole.
Alors bonsoir, monsieur Dédage. Alors je vais vous poser une question vis-à-vis d'une éventuelle répression à Cuba. On entend beaucoup des gens qui sont allés faire du tourisme à Cuba, que selon eux, les gens subissent une répression, que c'est un État total, enfin, autoritaire. Alors déjà, qu'en est-il de l'autorité de la police à Cuba? Et des éventuelles tentatives de déstabilisation interne ou venant de l'extérieur pourraient-elles justifier une fermeté du régime au niveau policier et une fermeté du régime vis-à-vis des médias, comme pour éviter les événements semblables à ceux qui se sont passés au Venezuela, par exemple. Donc je récapitule, y a-t-il une fermeté policière du régime et des tentatives de déstabilisation de l'intérieur, de l'extérieur ou faites par les médias pourraient-elles justifier une telle fermeté? Merci.
Moi, j'aime bien ces questions sur les gens qui sont allés à Cuba et qui reviennent et qui racontent. Je vous avoue que je suis allé à Cuba, je ne sais pas combien de fois. Et la première fois que je suis allé, je croyais avoir tout compris, jusqu'à ce que j'y retourne et que je me rende compte que je n'avais rien compris la première fois. Mais cette fois-ci, c'est la deuxième fois si j'avais tout compris. Jusqu'à ce que j'y retourne une troisième fois et que je comprenne que je n'avais pas bien compris la première ni la deuxième. Et enfin, bref, à la troisième, j'avais tout compris. Jusqu'à la quatrième, évidemment, etc. Bon. La question de la fermeté, moi je trouve ça assez aberrant que des gens puissent revenir de Cuba en parlant de la fermeté des autorités cubaines. Cuba est probablement le seul pays qui, depuis 50 ans, notez bien ce que je suis en train de vous dire, à part la Suisse peut-être, est probablement le seul pays au monde depuis 50 ans où la police et l'armée n'a jamais tiré sur sa population. Nous sommes en train de commémorer ici en France, il y a eu la sortie de plusieurs documentaires, le noyade de milliers d'Algériens dans la Seine, à l'époque où les Barbados étaient déjà rentrés à La Havane. À l'époque où les Barbados rentraient à La Havane et sur leurs chars étaient jugés des Noirs, des Nègres, à la même époque aux États-Unis, les gens de la même couleur de peau étaient encore pendus aux arbres à cause de la couleur de leur peau, et dans d'autres États des États-Unis, devaient s'asseoir au fond des bus. Mais l'histoire leur a tout pardonné apparemment aux Américains. En tout cas, Hollywood l'a fait, et la culture dominante ici le fait. Moi, j'ai jamais vu une population aussi confiante à l'égard de sa police. En tout cas, en Amérique latine, je n'en ai pas vu. Les Cubains, comme ce sont des gens qui vivent dans une île, qui ne voyagent pas beaucoup, ils n'en ont pas les moyens, c'est une île, c'est des gens pauvres, bon voilà, c'est ça. D'abord et avant tout, ils ont tendance aussi à exagérer un peu, mais moi je peux vous dire que tout ce que j'ai pu voir des actions des policiers à Cuba, je pense que les Cubains, la façon que les Cubains traitent leurs policiers, en France, les Français ne pourraient pas se le permettre du tout. Du tout. Je n'ai jamais vu une crainte dans le regard des Cubains. Je n'ai jamais vu une peur distillée comme j'ai pu le constater ailleurs en Amérique latine. Il n'y a pas absolument aucune animosité. Je tiens à insister là-dessus. Vraiment. Moi, les étudiants cubains qui m'ont raconté qu'ils étaient torturés, je leur ai demandé de me raconter leur scène de torture. C'est comme ça qu'un Cubain parle. Hein. Et il me raconte à Santa Clara, ben oui, à la sortie de la boîte, on était bourrés, on a commencé à se battre, la police nous a embarqués, nous a emmenés au commissariat, nous a fait dormir toute la nuit sans nous donner à manger, ils nous ont lâchés que le matin. Et moi, j'étais là, et alors? Et après? Ben après, rien. Après, c'était ça, la torture. Je peux vous raconter l'histoire d'un colonel de l'armée, des forces spéciales cubaines, qui bourré un nuit, se bagarre avec un jeune pour un vélo, il n'avait plus de taxi pour entrer, il se bagarre comme c'est un soldat des forces spéciales, il tue le jeune. Dans un pays où la dictature, l'armée règne en maître, ben, le colonel des forces spéciales, ben, je sais pas, on le met dans un coin tranquille à Cuba, il est fusillé après un procès. Voilà. On peut être pour ou contre la peine de mort, mais je n'ai pas souvenir, je n'ai pas senti à aucun moment que l'armée ou quiconque est venu en aide par corporatisme ou je ne sais pas, du côté c'est un homme intouchable, etc. Non, il a été puni comme n'importe quel Cubain aurait été puni. Je n'ai jamais perçu que les militaires à Cuba étaient une classe possédante. Je pense l'avoir dit, je l'ai peut-être oublié, mais au début de la période spéciale, lorsque la crise économique est arrivée avec l'effondrement de l'Union soviétique, l'armée cubaine a été une des premières entités sommées à se débrouiller. C'est l'armée cubaine à qui on a dit « Désolé les gars, on n'a plus les moyens, il va falloir que vous vous débrouillez ». D'ailleurs, c'est comme ça que l'armée cubaine est rentrée dans le tourisme. J'ai vu des casernes entières biner les champs pour planter leur propre nourriture et faire pousser leurs légumes. C'est pas comme ça que ça se passe dans une dictature où les forces répressives sont choyées, sont favorisées. On n'est pas en Égypte là. C'est l'armée cubaine, partie intégrante du peuple, etc., etc. Maintenant, et pour clore un peu cette question, je vous rappelle qu'il y a eu 3000 attentats et que c'est une situation de guerre quasi déclarée avec les États-Unis. Que si on comparait ça à la France, on en serait à 20 000 attentats. Donc j'ai envie de vous renvoyer la question et à tous ceux qui rentrent de Cuba, ok, racontez-moi la France que vous imaginez au bout de 20 000 attentats. 20 000 attentats et 20 000 morts. Dites-moi à quoi ressemblerait la France. Dites-moi combien de soldats se baladeraient dans les gares avec des mitrailleuses. Dites-moi comment la population et les forces de l'ordre dans les métros, dans la rue, se regarderaient. Quelle serait la France après 20 000 attentats? Alors je m'excuse, mais égard aux conditions, je pense que Cuba, déjà sans ces conditions, est un pays très décontracté, où règne une très grande sérénité, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit chaque fois que j'y voyage, la sérénité des gens au quotidien, la sérénité des gens par rapport à l'avenir. Et maintenant, si on le remet en contexte, le fameux contexte du risque, du danger que Cuba court, parce que Cuba n'a pas le droit à l'erreur, c'est vraiment une situation que je qualifierais d'extraordinaire. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de pays qui arriveraient à assumer une telle sérénité dans une telle situation. Les questions de déstabilisation, je ne vois même pas comment elles pourraient être niées dans la mesure où, pour revenir à la loi Helms-Burton, elles sont marquées en toutes lettres. Le terme cinquième colonne n'y est pas mentionné, mais tout ce qui l'accompagne est mentionné. C'est-à-dire que, pour être bien clair, il y a une loi américaine, la loi Helms-Burton, une loi donc en vigueur, qui stipule et qui rend obligatoire au président en exercice du moment, de créer les conditions d'une déstabilisation. C'est pas une question de, oui, est-ce que la, est-ce que la, Est-ce qu'un dirigeant quelconque américain, il va lui prendre l'idée d'eux? Non, non. C'est obligé. C'est tellement obligé que le président, y compris Bush avant, Clinton avant lui et Obama aujourd'hui, tous les 6 mois, doivent se présenter devant le Congrès et présenter un rapport comme le devoir d'un élève pour dire au Congrès où en sont, où en est la déstabilisation de Cuba. C'est la loi Andrew Burton qui le prévoit. Il doit rendre des comptes, il doit se présenter et leur expliquer pourquoi ce n'est pas encore fait. Donc la déstabilisation, elle est permanente, hein. Cherchez, d'ailleurs, je parlais de la loi Andrew Burton, mais après la loi Andrew Burton, il y a eu des tas de choses. Il y a les émissions de télévision illégales, il y a les avions militaires qui circulent autour de l'île pour balancer les émissions, il y a des plans secrets qui sont pas secrets, mais dont les passages sont secrets, non publiés. On a du mal à s'imaginer. Quoi que peut contenir un plan publié sur Internet, sur le site du département d'État des États-Unis, qui prévoit des mesures pour favoriser la démocratie, etc., les guillemets, et qui, dans le document officiel, dit: ah, ça, on peut pas vous le dire, c'est classé secret défense. Comme disent les Cubains, qu'est-ce que les Américains ont bien prévu pour Cuba qui ne peut pas être déclaré officiellement, sinon des sales coups, sinon de la déstabilisation. Alors, votre question sur les prisonniers politiques. Non, ce n'était pas une question sur les prisonniers politiques, je crois, mais indirectement. Encore une fois, je veux bien qu'on parle des prisonniers politiques et je vais en parler. Mais avant de parler des 70, d'après Amnesty International, c'est le plus grand chiffre que j'ai jamais lu. 70 prisonniers politiques. Actuellement, il y en a zéro, hein, soit dit en passant. Les derniers ont été libérés. Mais ça, les médias vous le diront pas. Selon les critères d'Amnesty 70, combien de réfugiés politiques à Cuba? Comme si l'histoire avait été à sens unique, encore une fois. Bon, des centaines de milliers. Alors, on veut me faire parler tous les jours, chaque fois, les prisonniers politiques et jamais des réfugiés politiques. Maintenant, la question des prisonniers politiques, elle est très simple. Pour moi, il n'y a pas de prisonniers politiques selon la loi cubaine. Ce qui est déjà quelque chose d'assez important parce que la définition du prisonnier politique, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a une définition, c'est quelqu'un qui est en prison pour des raisons politiques, n'ayant pas et qui n'a pas fait acte de violence ou qui n'a pas violé les lois de son pays. C'est ça un prisonnier politique. Bien. Combien de gens à Cuba aujourd'hui sont en prison pour uniquement des raisons politiques? Je n'en connais pas. La question, c'est qu'ici, maintenant, on va les appeler prisonniers politiques. D'où vient l'ambiguïté? L'ambiguïté, elle est simple. Lorsque les États-Unis ont voté la loi Helms-Burton, 1996, je rappelle, en gros, cette loi prévoit la déstabilisation de Cuba, la privatisation de son économie, le contrôle de son pouvoir politique par une commission ad hoc désignée par les États-Unis, la création d'une cinquième colonne, quoi encore? La privatisation des banques, de l'éducation, ah oui, et le remboursement aux États-Unis de tout le mal que Cuba a causé aux États-Unis à cause de la révolution. Ça aussi, c'est une cause importante. Le blocus ne pourra être levé que lorsque les Cubains auront remboursé leurs dettes. On ne spécifie ni le montant, ni la durée. Bref, c'est laissé à l'appréciation des Américains pour décider que finalement, bah, les Cubains, ils ont assez payé comme ça, on va arrêter. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette loi Helms-Burton? Cette loi Helms-Burton, est-ce qu'on peut faire de mieux comme déclaration de guerre, mais sans l'armée, quoi? C'est une déclaration de guerre, moins l'invasion militaire. Bref, les Cubains, il leur a fallu 2 ans pour voter une loi qui est une loi, si vous voulez, anti-Helms-Burton. C'est simple, c'est clair, c'est net. Ça dit, toute collaboration avec des personnes qui mettent en œuvre ou tentent de mettre en œuvre ou de favoriser d'une façon quelconque la loi Helms-Burton deviennent des traîtres. Ce qui aurait été le cas en France d'ailleurs. Si on est en France, vous avez un ennemi déclaré qui non seulement le déclare dans les faits, mais l'inscrit dans la loi. Il y a une démarche qualitative ici, un changement de braquet qui est différent. C'est je l'ai inscrit dans la loi que je vais te casser la gueule. C'est pas une échauffourée comme ça, malencontreux. C'est légal. Je m'excuse, monsieur, mais j'ai l'obligation légale de vous casser la gueule. OK. Maintenant, tous ceux qui lui viennent en aide. Alors, les gens qu'on a arrêtés, etc., etc., Moi, je n'en connais que des cas. On me présente dans les médias, y compris dans les médias, mais comme dans les médias, on vous décontextualise totalement la situation, on vous montre que la moitié de l'écran, forcément, vous ne comprenez pas le film, parce que l'autre moitié de l'écran est cachée. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'ils avaient des laissez-passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour rentrer aux États-Unis, à ce qui fait office d'ambassade des États-Unis à Cuba. Pas vraiment une ambassade, mais disons que ça fait. C'est surtout le siège de la CIA, mais bon. Les gars en question, ils se défendent en disant oui, mais c'était pour aller faire des photocopies. Putain, moi je connais pas l'ambassade des États-Unis qui offre service photocopie 24 heures sur 24, quoi. Connexion Internet, quoi. C'est devenir des cybercafés, ces lieux-là, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire croire? Enfin, j'étais pas sur place, j'ai pas assisté au procès, etc. Mais bon, excusez-moi un peu, l'expérience aidant, sachant qui sont les Américains, on ne fera jamais croire que les Gugus en question, quand ils rentrent à l'ambassade des États-Unis et qu'ils en sortent et qu'ils rentrent et qu'ils sortent et qu'ils rentrent et qu'ils sortent, c'était juste pour faire des photocopies de leur fiche de travail ou de leur certificat de je ne sais pas quoi. Donc, ok, voilà. Mais pour vous donner une idée, parce que moi, la méthodologie, elle me plaît. Il me plaît d'instaurer une méthodologie. Lorsque les Cubains ont fait ce fameux rafle, parce que dans l'esprit des gens, il y a ce fameux rafle de, ce qu'ils appellent rafle de 2003, quand ils ont arrêté 70 personnes d'un seul coup. Évidemment, on a suivi ça de très près, et parmi ces 70 personnes, il y avait 20 personnes, une vingtaine qualifiées de journalistes. Qualifiées de journalistes par qui? Encore méthodologie, moi je me méfie. D'abord par le département des États-Unis. 20 journalistes ont été arrêtés. Ben évidemment, ils vont dire que c'est des journalistes parce que ça ne la fait pas de dire 20 garçons bouchers ou 20 serveurs de garçons café ou. On le précise pas, mais quand c'est des journalistes, déjà, on commence à le préciser, sans se poser la question s'ils sont au-dessus des lois ou pas. Le fait qu'ils étaient journalistes ou pas, à la limite, c'est presque secondaire. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont été arrêtés. Mais la partie intéressante là-dedans, c'est quoi? Vous avez toutes les billes en main, déjà pour tirer vous-même des conclusions, à mon avis. Il vous manque un élément à ça, qui n'a absolument rien à voir avec cette affaire-là, mais on va faire la liaison très rapidement. Il existe à Cuba environ, selon les périodes, entre 150 et 200 correspondants internationaux. Il y a les bureaux de CNN, les bureaux de l'agence France-Presse, Associated Press, CBS, je ne sais plus qui, des correspondants internationaux en permanence, entre 150 et 200. OK? Question bête. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement, quel qu'il soit, arrête les journalistes lorsqu'on les arrête parce qu'ils sont journalistes. Hypothèse de travail, puisque c'est ce qu'on nous dit. Ben on arrête des journalistes pour empêcher que la vérité soit connue. On ne voit pas trop la raison. Expliquez-moi pourquoi Fidel Castro, on va simplifier et rendre les choses aussi clichés que les médias, hein, on est d'accord là-dessus, pourquoi Fidel Castro fera arrêter 20 blogueurs cubains que personne ne lit, tout en laissant vaquer à leurs occupations 150 à 205 à 200 correspondants internationaux qui ont oublié un détail dans toute cette affaire, c'est de se plaindre qu'on les empêchait de faire leur travail. Ils se sont jamais plaints qu'on leur empêche de faire leur travail. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les Cubains feraient arrêter 20 blogueurs, je répète que personne ne lisait, et laisseraient travailler tous les correspondants internationaux? Lorsqu'un pays ne veut pas savoir, faire savoir ce qui se passe à l'intérieur, ils font comme l'Arabie Saoudite, où les correspondants internationaux sont tout simplement interdits. Lorsqu'un pays ne veut pas faire savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays, ils font comme au Mexique, ils les butent. Lorsqu'un pays ne veut pas faire savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays, ils font comme en Colombie, ils les assassinent les uns derrière les autres. À Cuba, soi-disant le nec plus ultra des atteintes aux libertés de la presse consiste à arrêter 20 blogueurs à la con qui ont eu le malheur de croire aux promesses de l'ambassade des États-Unis. Pourquoi ils deviendraient les rédacteurs en chef du futur bulletin de la liberté sur Cuba, ou Dieu sait quoi, peu importe à la limite. Donc c'est totalement illogique, et ça n'a totalement pas de sens. Il a fallu 5 minutes montre en main pour que Reporters sans frontières relaye l'information que les journalistes se faisaient arrêter à Cuba. Il leur a fallu 2 ans pour admettre qu'un journaliste d'Al Jazeera est à Guantanamo. Et leur justification pour ne pas s'occuper de cette affaire, c'était oui, ben, il fallait se faire une enquête, voir si c'était vraiment un journaliste, son statut de journaliste, et savoir s'il avait été arrêté en Afghanistan à cause de son statut de journaliste ou si c'était à cause de quelque chose qu'il avait fait. Quand c'était Cuba, il aura fallu 2 minutes montre en main pour dire ça y est, de journalistes ont été arrêtés parce qu'ils étaient journalistes. Je tiens à préciser, par exemple, que vous avez la fameuse cette blogueuse là, dont tout le monde a fait des gorges chaudes, son nom m'échappe là, qui a eu les honneurs de Time Magazine, qui a dit que c'était une des personnalités les plus influentes au monde, qui aurait même reçu un mot de Obama, qui se déclare résistante et censurée, qu'elle n'a pas accès à Internet, qu'elle est obligée de passer par l'Allemagne, etc. Yoani Sanchez, voilà, c'est son nom. Mon ami Salim Lamrani l'a rencontré et lui a fait une interview qu'elle a acceptée, puis on se rend compte que cette fameuse blogueuse qui écrit à longueur de page des choses et des machins, des trucs, qui serait la plus influente, une des personnalités les plus influentes au monde, on se rend compte qu'elle était incapable d'aligner trois phrases cohérentes. Et jusqu'au jour où, par exemple, ça aussi, ça fait partie des choses que les médias ne vous raconteront jamais, que la dite de Yoani Sanchez, qu'on a présenté comme quelqu'un de pourchassé par le régime, eux-mêmes, c'est-à-dire les journalistes occidentaux, on a les photos sur Internet, c'est eux-mêmes qui les ont publiées, mais ils ne font pas beaucoup de bruit parce qu'ils ont un peu honte après. Ils la trouvent en train de bosser sur le Wi-Fi du plus grand hôtel à La Havane, tranquillement, comme ça, en train de siroter son café. Là, pour une blogueuse soi-disant clandestine, présentée comme, je veux dire, voilà quoi. C'est toujours la même chose. C'est oui, l'exemple de la lesbienne syrienne, l'exemple des couveuses koweïtiennes. Voilà, qu'est-ce que je vous raconte? Lorsque les médias ont décidé de se focaliser sur un pays, vous pouvez vous parachuter avec une caméra et un micro n'importe où dans le monde, n'importe où, et transformer n'importe qui en héros. Parce que cette concentration systématiquement... Est-ce qu'il existe un autre pays au monde où une manifestation d'une dizaine de dames soit diffusée dans le monde entier, les fameuses dames en blanc, là, pour soi-disant défendre leur mari, etc., qui osent se comparer aux maires de la place des mères argentines. Si ces mêmes personnes manifestaient, Champs-Élysées, sous le siège de TF1, ou sous le siège, ils se feraient m'attaquer, puis on verra pas une seule image, je veux dire que... Voilà. Je crois qu'il y a un énorme effet d'écho, de caisse de résonance énorme autour de Cuba, où chaque incident se transforme en un événement politique majeur, où un prisonnier meurt de faim après une grève de la faim au bout de 50 ans, et on en parle ici pendant une semaine, ou dans un pays où on compte des centaines de suicides par an dans les prisons, etc., etc. La disproportion des choses, la première justice consiste à simplement les ramener à leur juste proportion. Je parle même pas de les ignorer pour des raisons idéologiques, c'est simplement de les ramener à leur proportion. C'est pour ça que quand je parle de 3000 attentats, il faut avoir dans la tête proportionnellement au pays. Lorsque je parle du nombre de médecins que les Cubains envoient, proportionnellement au pays. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'à Cuba, il y a des pains partagés, même secs, qui valent toutes les bonnes œuvres d'un Bill Gates. Parce que c'est pas parce que tous les Cubains n'ont pas un iPhone dans la poche que le régime doit être critiqué. Le régime doit être défendu parce qu'en fonction de leurs capacités, leurs priorités sont celles que nous prendrions tous entre nous si nous avions les moyens d'exprimer véritablement nos opinions. Et en ce sens-là, Cuba est éminemment plus démocratique que la France ne l'est. Et que sa police est donc éminemment plus démocratique que la nôtre. Et je répète, elle n'a jamais tiré contre sa propre population, elle n'a ni l'armée, ni la police. Jamais. Je crois que c'est un des rares pays au monde à pouvoir le dire.
Très bien, merci Victor. J'aurais aimé souhaiter donc relayer une question de Michel. Alors Michel qui a posé sa question il y a un bon moment déjà. Il parle d'un ouvrage dont le titre français pourrait être traduit par « La fête sous vigilance ». Alors, il ne l'a pas lu parce que ce n'est pas disponible en français, mais il a lu un article dans la revue Books. Donc, il vous demande déjà si vous connaissez cet ouvrage, si ça vous dit quelque chose. Quel en serait le titre original? Ça, c'est sans doute en espagnol, ou en anglais peut-être. L'ouvrage parle notamment du fait que le gouvernement castriste tente de transformer le pays en une sorte de carte postale pour touristes, mais dans lequel aussi les Cubains volent dans leurs entreprises avant de revendre le fruit de leur larcin au marché noir, car ils ont des gros problèmes pour joindre les deux bouts. Voilà, est-ce que vous pouvez commenter cette remarque de notre ami Michel?
Je ne connais pas le livre. Et pour les quelques phrases que vous citez, on dirait un discours de Raoul. Juste pour dire que oui, alors, on sait. Tout ça, c'est pas la peine de. Enfin, je ne sais pas comment le livre a été présenté dans Books, mais s'ils essayent de nous faire croire que c'est le livre d'un dissident comme ça qui est en train de nous faire des révélations, oui, du calme, les gars. Le premier dissident à Cuba, pendant des années, ça a été Fidel Castro lui-même. Hein, parce que tout le monde parle de ses discours, mais personne ne les a jamais lus. J'invite tout le monde à y retourner et à lire ce qu'il racontait et ce qu'il dit. Raoul était moins bavard, mais j'ai lu des articles de Raoul parlant de la société cubaine, etc., qui n'étaient pas piqués des vers. Et s'il y a une particularité chez eux, comme chez les autres dirigeants, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on leur raconte des histoires. Ils disent eux-mêmes que la révolution peut disparaître, surtout de notre propre fait. Donc, ils sont très, 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 très soucieux de ne pas tomber dans ces travers comme ça de sociétés qu'on s'invente, de mensonges qu'on se raconte, etc. Bien. Ils sont conscients de tout ça. Je crois que tout le monde est con. Oui, les Cubains volaient dans les entreprises, bien sûr. Quand vous avez un salaire de 10 dollars par mois ou de 5 dollars par mois qui vous permet de survivre jusqu'à la moitié du mois et que la livreta vous permet de survivre péniblement l'autre moitié du mois, et encore, ça dépend des époques, oui, à un moment donné, mais j'appelle ça des techniques de survie, ce qu'ici on appelle ça de la corruption. Mais moi, la corruption, c'est le salopard qui croule sur l'or, le pognon, le salaire, qui n'en a jamais assez, et entre guillemets, qui fait, bon, là, le banquier, quoi. Là, on parle de gars, brave gars, peu ou prou, d'ailleurs, parfois pas si brave que ça, mais bon, cela dit, d'une manière générale, il s'agit de stratégies de survie, d'amélioration de son quotidien. Tout le monde le constate. Quant à dire un paradis pour touristes, mon Dieu. C'est une question qui revient souvent, et d'ailleurs l'histoire récente est déjà en train de lui donner tort. En train, pas commencé encore, mais en train de lui donner tort. Lorsque la crise a frappé Cuba en 1900, début des années 90, les Cubains n'avaient aucune porte de sortie. Cuba n'a pas de source d'énergie, il n'y a pas de marais, il n'y a pas de rivière, de grande rivière, il n'y a pas de charbon, il y a peut-être du pétrole dans les années qui viennent, mais à l'époque, il n'y en avait pas de matières premières, du sucre, du sucre, du sucre, et du rhum et un peu de et du tabac. La question qui s'était posée à l'époque, très durement, c'est qu'est-ce qu'il y avait comme alternative? Et la seule que les Cubains ont vue, c'est le tourisme. C'est pas qu'ils avaient envie de gagner de l'argent. C'est pas qu'ils se sont dit, tiens, on va s'éclater. Au contraire, je me souviens de Carlos Tablada, qui était un des conseillers économiques du gouvernement à l'époque, qui est venu en France faire une tournée pour expliquer la politique cubaine, ce qui allait se passer dans les 10-15 ans qui allaient suivre. Et je précise que ce qu'il avait annoncé se réalise. Donc le plan, en fait, est assez bien suivi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, non, tout ça, c'était prévu à peu près. Donc ils se sont décidés de se lancer dans le, ils ont, ils sont, malgré eux, se sont lancés dans le tourisme. Ok, une fois qu'ils ont décidé de se lancer dans le tourisme, il y avait le deuxième problème à gérer. Comment éviter la contamination du pays par le tourisme? Parce qu'ils étaient lucides, ils avaient bien vu ce que ça peut donner ailleurs. Problème, c'est qu'ils ont parié, et ça explique leur stratégie, leur politique d'éducation massive, ils ont parié sur la maturité des Cubains pour ne pas sombrer, j'allais dire, avec le tourisme. Et ils ont eu raison, ils ont fait un pari, ils ont eu raison, en partie, mais cela dit, un autre pays soumis aux mêmes conditions, on se demande ce que ce serait devenu. Donc, tout en pariant sur l'éducation de la population, ils n'avaient pas vraiment le choix, ils ont ouvert le pays au tourisme. Alors, sachant que la loi Helms-Burton peut punir n'importe quel capitaliste qui investit à Cuba, parce qu'il y a l'extraterritorialité, c'est long, hein, c'est compliqué cette affaire, ne viennent à Cuba que les gens qui ont aucun compte à rendre aux Américains ou qui vont gagner tellement de pognon que le risque en vaut la chandelle, si je puis dire. Je vois pas d'autres circonstances. Un capitaliste standard ne va pas investir ou construire quelque chose à Cuba parce que les Américains se réservent le droit de représailles aux États-Unis comme ailleurs. Donc déjà cette opération, déjà le fait de dire l'ouverture au tourisme, je parlais tout à l'heure des marges de manœuvre, même cette action-là n'était pas aussi facile, était plus facile à dire qu'à faire. Ouverture au tourisme, mais qui va venir, comment, qui va oser? Parce qu'il y a eu des chaînes d'hôtellerie qui sont venues construire des hôtels et qui ont retiré leurs billes sous pression des Américains. Il y a eu des compagnies qui sont venues et les Américains leur ont dit, si vous continuez, on va vous faire payer, on va vous saisir vos biens aux États-Unis, et qui sont repartis, etc. Bien, donc déjà la marge de manœuvre, encore une fois, la marge de manœuvre était très réduite. Donc ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, un, on va d'abord parier sur le tourisme haut de gamme. Pourquoi le tourisme haut de gamme? Pas parce qu'ils ont été pris d'un soudain amour pour les riches et les capitalistes, mais c'est parce que c'est celui qui ramène le plus de fric et le plus vite. Parce qu'il y avait une urgence à l'époque. L'urgence est de, rien que moins, j'ouvre les guillemets, sauver le pays. 80% du commerce avait disparu du jour au lendemain. Le PIB avait chuté de 30%. Il n'y avait plus de pétrole, plus de bagnoles qui roulaient dans les villes. La Havane plongeait dans le noir, je rappelle. Donc, ils n'avaient pas bien le choix. Donc, ils ont dit, course contre la montre, on fait du tourisme. Tourisme de luxe, parce qu'il faut qu'un maximum de devises rentrent dans un minimum de temps. Et pendant qu'on y est, on va pourrir là où le tourisme se pose, c'est-à-dire qu'on va par exemple prendre la fameuse plage de Varadero et on y va. Plutôt que de pourrir toute l'île, ils ont choisi des zones précises, des sortes de mini Côte d'Azur. Alors il y a le plus fameux, c'est Varadero. Mais les gens qui reviennent et qui parlent de ça, du tourisme qui a puni Cuba, je pense qu'ils parlent de Varadero. Alors, à tort ou à raison, je dis simplement que les Cubains l'ont fait exprès. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que je l'ai entendu. Ils l'ont fait exprès parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et même ce tourisme-là, dans les premières années, c'était pas simple parce que quand vous êtes soumis à un blocus, eh ben, comment vous fournissez-vous dans les biens et les consommables à l'intérieur de l'hôtel? Vos draps viennent d'où? Vos lits viennent d'où? La nourriture tous les jours que les touristes exigent, parce qu'ils vont pas manger des haricots noirs et des riz tous les jours, ils veulent leur buffet au Club Med, ils veulent leur, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart des produits étaient importés pour être aussitôt revendus. C'est-à-dire que même l'aspect richissime, les hôtels 5 étoiles qui donnaient une impression de luxe, au final, et dans les premières années, ne donnaient pas beaucoup de revenus. Parce qu'à cause du blocus américain, à cause du fait que l'économie cubaine était une monoculture sucrière, qu'il n'y avait pas d'industrie à l'époque, y compris à la Révolution, d'ailleurs, il n'y avait presque pas, il n'y avait pas de quoi fournir le tourisme. Donc, le tourisme, en fait, était une sorte d'importation d'une entité qui était posée sur une plage et de laquelle partaient, en fait, tous les revenus vers l'étranger pour importer les biens. Il leur a fallu longtemps et petit à petit pour arriver à, par exemple, fabriquer les draps qu'ils fournissent eux-mêmes maintenant à ces fameux hôtels. Les premiers lits sont apparus quelques années plus tard, c'est-à-dire que les lits étaient importés, etc., etc. Donc là, le tourisme a commencé à fournir un ballon d'oxygène en devise, parce que l'aspect devise est important pour un pays qui doit importer toute son énergie, par exemple, qui doit importer toute sa technologie quasiment, ok. Maintenant, ayant dit cela, les Cubains sachant et n'ayant pas une sympathie particulière pour le tourisme, je crois vraiment que s'ils avaient pu s'en passer, ils l'auraient fait, bien, ils sont en train de parier sur une autre forme de tourisme. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus long à mettre en place, il est beaucoup plus long à produire des résultats, il ne peut donc être fait qu'en parallèle et éventuellement venir se substituer peu à peu à ce tourisme de masse. Je parle de tourisme écologique, d'un tourisme de routard, d'un tourisme de campeur. Je me souviens les premières années de tourisme à Cuba, le camping pour eux, c'était quelque chose qui leur effleurait même pas l'esprit. D'ailleurs, quand je leur racontais que les Occidentaux se coucher sur des matelas gonflables sous une toile et qui trouvaient ça bien, ils n'arrivaient pas à comprendre que des gens aussi riches que nous puissions trouver un moindre plaisir à nous vautrer sous une toile de tente en plein air. Donc déjà, le camping pour eux, c'était culturellement quelque chose qui leur échappait complètement. Il leur a fallu quelques années pour y venir. Donc le tourisme, oui, le tourisme écologique, ils essayent, mais ils ont, encore une fois, leur marge de manœuvre est étroite. Ils n'ont pas beaucoup de revenus en devises, il n'y a que le tourisme, et il n'y a qu'un tourisme d'un certain niveau qui leur apporte véritablement des devises. Le routard, il est sympa, il se balade avec ses goulots, il mange des sandwichs au bord de la route. On n'a rien contre lui, hein. Les Cubains n'ont rien contre lui, ils l'adorent. Seul problème, c'est qu'il ne rapporte pas. Il y a un système de santé à maintenir, il y a une éducation à fournir, il y a voilà quoi. À leur place, je pense que n'importe quel économiste occidental à la place des Cubains ou le FMI, si le FMI s'était occupé de Cuba, ben vous savez quoi, on n'en parlerait même pas de Cuba. Je pense que Cuba aurait été rayé de la carte et aurait disparu comme Atlantide. C'est-à-dire que il faut vraiment rendre hommage aux économistes cubains qui ont réussi un exploit d'empêcher le pire alors que les conditions étaient les pires.
Merci Victor de cette réponse. Alors justement, puisque vous parlez des économistes cubains à l'instant, j'aimerais poser une question. Ce sera la dernière concernant. Donc, il semble que, en fait, Fidel Castro, qui est le leader Massimo depuis très très longtemps, évidemment, de l'État cubain, il semble tout de même qu'il ait pris du recul à partir de 2004, si j'en crois les informations que j'ai eues, c'est-à-dire que à partir de 2004, il aurait laissé une poignée de personnes, notamment son frère Raúl Castro déjà, mais aussi à l'économiste Carlos Lage, je ne sais pas exactement comment on prononce, mais et qui aurait eu une influence sur le pouvoir cubain, c'est-à-dire que la transmission de pouvoir que l'on discute actuellement, savoir Raoul qui a remplacé Fidel, semble-t-il, il y avait déjà eu un léger changement de modèle en 2004. Est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus ou peut-être infirmer ce que je raconte? Merci.
D'abord, le terme, je vous le dis franchement, le terme de leader Maximo, c'est un marronnier journalistique occidental. Sachez que ce terme n'est jamais employé à Cuba. Lorsque dans les rares cas où vous le trouvez, il est collé à une définition comme le leader Maximo de la révolution, ce qui en français veut dire le chef suprême de la révolution. Ça n'a rien à voir avec le chef suprême au sens comme ça générique du terme. Donc, moi, je suis assez allergique à entendre cette phrase parce que ça fait vraiment partie du poison distillé. Les Cubains, eux, ils appellent Fidel Castro, ils l'appellent Fidel. 99% disent simplement Fidel. Et tout le monde sait de quoi on parle. Et moi, j'ai jamais entendu nuestro líder máximo, ce qui en français, d'ailleurs, traduit, a l'air de vouloir dire notre dirigeant maximum ou quelque chose comme ça d'assez brutal, ce qui n'est pas du tout le cas, là, en fait. Bref. Pour parler de Carlos Lage, en fait, Carlos Lage avait été discrètement mis à l'écart pour des histoires de ce que les Cubains appellent corruption. En fait, c'était pas un changement politique, c'était voilà. Maintenant, ce qu'il faut, il faut, il faut, il faut, il faut encore une fois relativiser tout parce que ce qu'un Cubain appelle corruption, je crois qu'en France, on dirait ben quoi, c'est normal. Carlos Lage, apparemment, lors du passage d'un cyclone dans l'ouest de l'île, la maison de sa fille qui avait été démolie a été reconstruite apparemment avec trop de priorité, trop de précipitation par rapport au reste de la population, ce qui pouvait donner l'impression d'une sorte de favoritisme et ce qui lui aurait coûté sa place de ministre de l'économie. Moi, j'ai vécu pendant quelques mois voisin de Carlos Lage. Je l'ai vu, moi, partir au travail en vélo, sans garde du corps, sans accompagnement. Je sais que c'est quelqu'un d'intelligent, de très intelligent, de simple, de très simple, comme la plupart d'ailleurs des dirigeants cubains. On peut croiser le ministère des Affaires étrangères se baladant dans la rue en tenant la main de sa femme sans aucune escorte. Je crois qu'il n'y a que Fidel ou Raoul et Raoul qui sont principalement protégés pour la simple et bonne raison que c'est qu'ils sont officiellement désignés comme des cibles. Donc je ne pense pas que c'était vraiment un changement de politique. Comment dire, la mise à l'écart de Carlos Larré. De toute façon, à Cuba, les changements de politique, je suis désolé de le dire, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas Fidel qui dit, tiens, toi, tu m'énerves, dégage. Non. Ça se passe, ça se discute, ça se sait, ça s'annonce, on le sait que ça va venir. Donc, l'idée même de dire qu'il y aurait eu un changement, et je ne me souviens pas de ces discussions particulières à l'époque, donc je ne crois pas que c'était, mais cela dit, je ne suis pas omniscient là-dessus, omniscient. Hein. Là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus. 2004, 2004, c'était juste après la fameuse restructuration sucrière. La dollarisation et la dédollarisation de Cuba, c'était un moment très compliqué. Peut-être bien qu'il y ait eu certains ajustements, mais des changements profonds, je crois pas. Enfin, je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis là-dessus.
Très bien, on vous remercie pour cette réponse. Je vais passer la parole à notre camarade Nicolas, Mister Mayonnaise. Alors je t'ouvre le micro, juste une seconde. Tu peux parler.
Bonsoir Monsieur Dedage, je suis très heureux de vous entendre parler de Cuba d'une manière si sincère. Ma question porte sur l'éducation à Cuba. J'avais vu un reportage il y a quelques années qui montrait très explicitement que le paquet avait été mis dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, ça a fait une sorte de jurisprudence, puisque de toute façon, dans toute l'Amérique du Sud, c'est le cas, notamment au Venezuela, Hugo Chavez a fait le travail. Pourriez-vous nous parler, nous faire un petit topo sur le système éducatif à Cuba, à savoir comment ça fonctionne, quelle est l'organisation concrète, quel est le niveau réel des élèves, etc. Je vous remercie.
Malheureusement, je connais pas. Je pense que ça suit à peu près, enfin, si je puis dire, à peu près les cycles français, les maternelles, primaires, ça correspond à peu près aux mêmes tranches d'âge. Ils ont un petit système d'uniforme pour reconnaître les élèves. Je sais que il y a une discipline et notamment une volonté de bien paraître. C'est-à-dire quand on va à l'école, bah, c'est comme si, comme chez nous à l'époque à la campagne, quand on allait en messe, il faut y aller propre, bien vêtu et respectueux de l'institution, parce que c'est pas un cadeau comme ça tombé du ciel, c'est quelque chose qui a été bâti et mérité. Je peux vous parler d'une anecdote. L'éducation à Cuba, et ça a toujours été vécu comme ça, je crois qu'il y a une certaine intelligence, c'est la démonstration de l'intelligence politique de ces dirigeants que j'admire. De plus en plus, parce que l'histoire leur donne, nom de Dieu, une raison, mais à quel point c'est inimaginable. Ils partent du principe qu'un peuple éduqué peut endurer des souffrances à condition qu'elle les comprenne, qu'elle sache, que ce soit clair pour tout le monde le pourquoi et le comment. Je crois qu'ils ont raison, après tout. Pourquoi est-ce qu'on se révolte dans la rue contre un pouvoir? On se révolte d'abord parce qu'on pense qu'on est dans une situation injuste et qu'ensuite que le pouvoir ne fait pas ce qu'il doit faire. Lorsqu'on sait pourquoi on est dans une telle situation et qu'on sait que le pouvoir en place fait tout ce qu'il peut dans les fameuses limites du possible, bah, on participe à la solution plutôt que de créer d'autres problèmes. Mais vous allez me dire, oui, mais tel que tu le racontes, Victor, l'éducation endoctrinement alors. Ah, je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote qui est née d'une remarque lors d'un débat à Grigny, dans le Rhône, d'un étudiant, d'un élève, plutôt un lycéen de 15 ans. Le débat portait sur l'art de la, comment, sur la désobéissance. Et il parlait de du fait qu'il n'arrivait pas à mobiliser ses camarades de classe pour quoi que ce soit, qui s'étaient totalement désintéressés de la politique. Et du coup, ça m'a rappelé une histoire qui m'est arrivée il y a 10 ans, 15 ans peut-être, 10 ans, lorsqu'un ami professeur de la Havane, professeur en art, histoire de l'art, avait fait une tournée en France. Il avait été fait une tournée dans les lycées, les écoles, les universités françaises. Il en a fait une trentaine d'établissements pour faire des exposés sur l'art, plusieurs types d'exposés sur l'art en Amérique latine, mais aussi mondial dans le monde. Et il a fini sa tournée de conférences chez moi. C'est un ami. Puis on en parlait un soir comme ça. Je lui dis, au fait, ta tournée comme ça, quelle impression générale est-ce que, qu'est-ce que tu en as retiré, première des impressions? Et il réfléchit, il me dit, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'apathie des élèves. Je lui dis, comment ça, l'apathie? Il me dit, ouais, l'apathie, quand on leur posait des questions, quand je finissais les interventions, les gens ne posaient pas de questions, c'était difficile, ils levaient la main comme ça. C'était toujours les profs qui devaient lancer la première salve de questions, et puis même certains, avant de poser des questions, ils regardaient vers le prof pour voir s'ils avaient l'autorisation, etc. Et moi, je lui dis, bah, oui, c'est les jeunes, c'est partout pareil, hein. Et c'est là qu'il me dit, ah non, moi, à Cuba, chaque fois que je rentre dans ma classe, j'ai l'impression d'être un torero qui rentre dans l'arène. Parce que moi, tous les jours, je dois leur prouver que je mérite d'être professeur. Tous les jours, je dois rejustifier encore une fois ma position ici devant eux en tant qu'enseignant et eux en tant qu'élèves. Tous les jours, je sors de ma classe, je suis trempé de sueur, c'est comme si j'avais livré un match de boxe. Et tous les jours, je suis heureux d'avoir été un enseignant ici à Cuba et pas en France. Parce que c'est comme ça que nous voulons que notre jeunesse soit. C'est comme ça qu'on les veut et c'est comme ça qu'on les éduque. Et je trouve que cette simple façon de considérer que le professeur a un devoir de réveil, de prise de conscience. Moi, on m'a, des professeurs de médicaux, nous, parce que j'étais pas seul dans la salle, nous ont raconté récemment, ils disaient, oui, mais tu comprends pas, parce qu'à Cuba, par exemple, un professeur doit être au courant de tout, doit être omniscient, parce qu'à Cuba, c'est une habitude, le prof de français, ou le prof de peinture, ou le prof de mathématiques, ou de physique rentre en cours, et la première question qu'il va entendre le matin, c'est, Maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer en Syrie en ce moment? Comme ça. Et le professeur, il a intérêt à avoir une réponse. Il a intérêt à être au courant. Parce que s'il ne sait pas ce qui se passe en Syrie, bah, qu'est-ce qui vient nous casser les pieds à nous enseigner la physique? Ça, c'est le Cubain qui nous raconte ça. Il nous dit, donc il y a une véritable exigence, une véritable exigence de la part des élèves. Une exigence qui est cultivée de la part des enseignants. Le rapport enseignant-élève est totalement, mais alors totalement différent des rapports ici. Et j'allais presque dire, si j'avais une raison d'avoir confiance en Cuba et son avenir, c'est probablement sur cet aspect-là. Cette véritable volonté de ne pas faire, de ne pas rendre les cerveaux disponibles, hein, à la propagande et à la publicité. Il n'y a pas de publicité à Cuba, vous ne pouvez pas savoir comment c'est, ça soulage le cerveau. Un pays où il n'y a pas de publicité, on se rend compte que quand on rentre en France de cette agressivité, où les gens ils ont l'habitude de réfléchir, où l'obésité intellectuelle dont je parlais tout à l'heure est proscrite, donc humain il peut faire monter 3 étages dans la réflexion, alors qu'en France, arrivé au pays, on s'arrête et on ne sait plus quoi dire après. Non, le système éducatif il est proactif, il est agressif. Si je puis dire, mais agressif dans le bon sens du terme. C'est un système qui a ramené, donc j'ai dit, les élèves à 20, 21, et c'est le seul pays au monde, je crois, qui a une vingtaine d'écoles où il n'y a qu'un seul élève. C'est-à-dire qu'à Cuba, on estime qu'un enfant d'un paysan qui habite au fin fond de la Cambrousse, eh bien, au lieu de le faire se déplacer et de désertifier la campagne et pour venir à l'école, eh bien, c'est l'école qui va à lui. Donc, ils ont créé des écoles avec un seul élève et une maîtresse qui est pour lui, dédiée à lui. Il y a un ordinateur, un panneau solaire. Et voilà, l'enfant est grandi dans son milieu, chez lui, sans être écarté de sa famille. C'est des expériences assez étonnantes. Je ne peux pas vous parler plus en détail du programme, des programmes en question. Je ne les connais pas. Je peux vous dire que l'aspect endoctrinement que beaucoup de gens supputent, non. J'ai lu et consulté les manuels d'alphabétisation, etc. Et les premiers livres qu'on leur fait apprendre, leurs premières lectures qu'on leur fait, ce sont les grands classiques de la littérature hispanique. C'est Don Quichotte, etc., etc. C'est pas le manuel du parfait petit guerrier. Cela dit, ils ont un sens très poussé de l'histoire. Ça, peut-être, c'est quelque chose qui n'a différent de la France. de la part de quelqu'un de l'extérieur qui n'a jamais suivi les cours là-bas, hein, mais l'impression que ça me donne, c'est la vision que les Cubains ont de leur propre histoire, la connaissance qu'ils en ont, et y compris de l'histoire de la France. L'autre jour, j'étais avec, l'autre jour, quand je dis l'autre jour, il y a 2, 3 jours, en train de balader en bateau mouche, il y avait des amis cubains qui étaient là, donc on leur a fait faire un tour de bateau mouche. Ils reconnaissaient les bâtiments, c'est la première fois qu'ils venaient à Paris, mais ils reconnaissaient les bâtiments mieux que nous, hein, nous, Parisiens. Donc, un sens de l'histoire, une connaissance de l'histoire qui est chez eux innée, et c'est très important, je pense, peut-être qu'on a perdu de plus ici. J'ai été frappé, à titre personnel, des critères de sélection, par exemple, pour les médecins en France, c'est les maths, je crois. Je me demande pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai interrogé des étudiants, je me demandais de sélectionner sur quoi, si je me souviens bien, c'est sociologie, histoire et psychologie pour sélectionner les médecins. Je trouve ça pas mal. Rien que ça crée une sorte de sélection à l'entrée où la vocation et une certaine intelligence du contexte, c'est-à-dire le malade dans son milieu, s'impose naturellement à cause d'une sélection qui est autre, qui n'est, j'ai rien contre les matheux, mais je préfère des médecins sélectionnés sur des critères psychologiques, sociologiques et historiques que sur la résolution d'une équation à 2 ou 3 inconnus.
Une question de ah, oui, non, une question de Farid, pardon, qui demandait si les pays d'Amérique latine aident Cuba économiquement.
Franchement, je pense que Cuba, parce que moi j'ai fait beaucoup de solidarité avec Cuba en essayant d'envoyer des projets humanitaires, on va dire, d'accord? J'ai toujours constaté que les Cubains étaient. Alors est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est quoi? C'est une sorte de réticence. Je crois pas que c'était que de la fierté. Il y avait peut-être un côté fierté. Non, pas nous, parce que je rappelle que pendant jusqu'à la crise des 90, c'est Cuba qui aidait le reste du monde, hein, et même aujourd'hui continue. Donc c'est pas évident de passer de donneur à récipiendaire, comme on dit, je sais plus, à receveur pour faire. Je sais que c'est pas simple. Cuba, là, sociologiquement, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, était composée d'une gigantesque classe moyenne. Classe moyenne latino-américaine. Cette classe moyenne s'est vue retirer les tapis sous les pieds d'un seul coup, donc s'est retrouvée dans un état de pauvreté, mais à laquelle elle n'était pas, entre guillemets, habituée. Donc je pense qu'il y a déjà pas l'habitude de. Je pense qu'il y a aussi maintenant le critère politique, tout simplement. Nous, on veut pas de l'aide. On veut simplement qu'on nous enlève le garrot du blocus et des trucs. Donc on veut des relations normales avec les autres pays. Il faut pas se faire d'illusions jusqu'à la victoire des régimes de gauche en Amérique latine. Le blocus s'appliquait aussi concernait les pays d'Amérique latine. L'extraterritorialité de la loi Warburton faisait peur aussi bien aux entreprises latino-américaines qu'aux entreprises européennes ou n'importe quelle entreprise au monde. Il y a aussi des dimensions de chantage, par exemple. Lorsque le Cuba voulait acheter des avions d'épandage, 4 avions d'épandage pour les récoltes au Brésil, à une compagnie d'aviation brésilienne, les Américains qui allaient leur en acheter 20 ont dit aux Brésiliens, si vous vendez les 4 à Cuba, on n'achète pas les 20. Résultat des courses, les Brésiliens n'ont pas vendu. Donc il y avait une sorte de blocus informel aussi. Ensuite, la position de l'Amérique latine après 200 ans de colonisation, 400 même, plus, bref, elle était simple. Si vous regardiez les lignes aériennes, les routes aériennes en Amérique latine, vous constatiez une chose, que pour aller de Santiago au Chili à Buenos Aires, il était plus facile de voler jusqu'à Miami et de redescendre que de prendre un vol direct. C'est-à-dire que toute l'économie latino-américaine était aspirée vers le nord. Même entre eux, il n'y avait pas de relations diplomatiques, commerciales. Très peu, rien à avoir avec ce que ça aurait dû être dans une situation, entre guillemets, normale. La colonisation en Amérique latine avait un sens. Les Cubains disaient d'ailleurs que les États-Unis pillaient chaque année plus que ce que les Espagnols ont pillé pendant 200 ans. C'est-à-dire que le rythme du pillage s'était sérieusement accéléré. Et toutes les bonnes choses ayant une fin, y compris pour les Américains, petit à petit, la résistance, les coups de boutoir ont fini par porter leurs fruits et les citadelles sont tombées peu à peu. Il faut dire aussi que l'arrogance des Américains, leur stupidité innée en ce qui concerne les relations humaines, n'a pas aidé pour grand-chose. Résultat des courses, on peut dire que grosso modo, en ce qui concerne toute l'Amérique latine, il n'y a plus aucun pays qui oserait défendre, ne serait-ce que du bout des lèvres, le blocus. Cela dit, ils ne contrôlent pas tout quand même, parce que ce sont pour la plupart des économies libérales. Donc ce sont bien les patrons locaux qui décident. Or, lorsqu'un investisseur local veut investir à Cuba, par exemple, mais que c'est risqué pour lui par rapport aux États-Unis, les autorités ne peuvent pas faire grand-chose pour ça. Donc, on ne peut pas obliger, on ne peut pas lui mettre un pistolet sur la tempe et dire « tu vas aller investir à Cuba, sinon ». Donc, résultat des courses, ils ont commencé d'abord, et puis ensuite, il y avait cette fameuse stratégie de l'ALCA des États-Unis qui voulait créer une zone de libéralisme économique total du nord jusqu'au sud, tout le continent américain. C'est là que les Cubains, avec les Vénézuéliens, ont lancé d'urgence l'ALBA, qui était le projet alternatif de coopération économique, qui a eu son heure de gloire, même symbolique parfois, et dans certains domaines tout à fait concrets et réels, et qui vient, à mon avis, là, de se concrétiser par un magnifique coup de diplomatique, c'est la création de ce fameux CELAC. Donc, les relations se sont améliorées économiquement. Il faut dire que beaucoup de pays, parmi les pays les plus amis de Cuba, eh ben, ils avaient pas grand-chose à offrir à Cuba, c'est encore Cuba qui allait leur offrir. C'est-à-dire que le Nicaragua, par exemple, ils ont beau être sympathisants avec Cuba, ben c'est encore les Cubains qui aident le Nicaragua. La Bolivie, c'est pareil. C'est plutôt les Cubains qui aident encore la Bolivie que l'inverse pour l'instant. Il y avait le Venezuela qui avait son pétrole, mais là, les Cubains ont refusé l'aide. Ils ont simplement dit, on va faire du troc. Donnant, donnant. Qu'est-ce qui vous manque à vous? Et qu'est-ce que nous avons qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez qui nous manque? Ben, les Brésiliens, les Vénézuéliens ont dit qu'on a du pétrole, les médecins cubains, on va les échanger, on va envoyer les médecins cubains dans les zones où les médecins vénézuéliens ne veulent pas aller. Et c'est ça, c'est un point important de détail dans la stratégie des médecins que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que les médecins cubains systématiquement se rendent véritablement dans les endroits où les médecines locales ne veulent pas aller, refusent d'aller. C'est pas une question de les mettre en concurrence. Ils sont même plus malins que ça, parce qu'ils créeraient, je ne sais pas quel... Non, ils vont vraiment dans les zones où les médecins libéraux locaux ne veulent plus aller. Donc, à ma connaissance, aider, non. Mais les choses sont en train de se mettre en place. Il y a, par exemple, la diffusion de certains produits anticancéreux qui sont commercialisés. Là, en Albanie, tiens, c'est le seul pays européen. En Albanie, il y a un laboratoire qui commercialise le Vidatox, qui est un traitement anticancéreux. Et il y a une autre usine qui s'est montée au Brésil. Donc, les pressions politiques, et j'allais dire, c'est surtout l'ambiance qui petit à petit change sur le continent. Faut pas oublier que l'Amérique latine a subi pendant 50 ans un matraquage idéologique anti-cubain. Moi, j'ai visité le Nicaragua révolutionnaire. Tenez-vous bien, révolutionnaire. Et dans les rues, parce qu'à l'époque, j'avais une barbe, on me menaçait en me faisant le geste de me couper la gorge en disant que les Cubains, c'était pas simple. Donc il y a eu des révolutions, il y a eu des changements en Amérique latine, mais dans le mythologie populaire, que Cuba avait parfois encore une image un peu, surtout dans certaines bourgeoisies, etc., une image... Et ça commence à changer. Je crois que dans toute l'Amérique latine, maintenant, la place Cuba est en train de reprendre petit à petit sa place. Mais c'est pas simple de changer une économie comme ça de bout en bout. En 20 ans, à l'échelle de l'économie, c'est rien quand elle a été détruite. Et quand on n'a pas eu de plan Marshall, et quand on n'a pas eu de cavalerie légère qui est venue à son secours, et quand on a le blocus qui attache les deux pieds, et qu'en plus, on persiste et signe à vouloir aider les autres pays. Parce que c'est faire procéder à un redressement économique, c'est une chose. Procéder à un redressement économique lorsqu'on a les pieds entravés, c'est autre chose. Et procéder à un redressement économique lorsqu'on a les pieds entravés tout en fournissant une aide maximo, comme on le dit, maximo aux pays qui en ont encore plus besoin que ce soit, c'est encore moins simple. Voilà. Et ma souris a encore buggé. Il y a quelque chose avec ces Macintosh. Vive les PC. Abajo el Macintosh. Est-ce qu'on m'entend?
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'on entend les conneries que je raconte?
Tout à fait, nous avons entendu vive les PC, ce qui fera plaisir.
Non, mais je parlais du PC cubain, hein, je parlais du PC cubain, évidemment. Vive le PC, c'est le PC cubain.
Ou le PSO cubain, peut-être.
Oui, ou le PSO. Bon, je coupe mon micro. Hein.
Très bien, merci. Bah, écoutez, j'aurais souhaité maintenant, puisqu'on va arrêter la conférence, qui me semble déjà très complète, je voulais vous remercier une fois de plus. Et vous proposez peut-être de nous donner un petit mot de conclusion pour terminer.
Une phrase de conclusion pour terminer. Ma phrase de conclusion pour terminer, c'est que pour rebondir sur Cuba qui nous aide, et pas l'inverse. C'est une question assez importante parce que moi je suis très touché en ce moment par la dégringolade générale idéologique en France. D'une manière générale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, il y a matière à se resserrer un peu. Or, moi, ma vie de militant à moi, c'est quoi? Je peux dire que le Parti communiste français m'a appris pourquoi être en colère. Pourquoi être en colère? C'est le Parti communiste français qui me l'a appris. Et je lui suis redevable. Cela dit, c'est la révolution nicaraguayenne qui m'a appris jusqu'où être en colère. C'est-à-dire que c'est là où j'ai compris que vraiment, il y avait matière à être en colère. Jusqu'où j'avais le droit d'être en colère. Il y a très loin. Pour ceux qui connaissent l'expérience nicaraguayenne, pour les autres, je les invite à regarder. Mais c'est les Cubains qui m'ont appris comment être en colère. Donc, PCF, pourquoi? Nicaragua, jusqu'où? Oui, le PCF, il y a longtemps, oui, comme dit quelqu'un là. Et le Parti communiste cubain, je parle d'étapes de la vie, hein. Et c'est les communistes cubains, les Cubains qui m'ont appris comment être en colère, comment étant vraiment le maillon qui nous manque en France. En France, on sait pourquoi il faut être en colère. On sait pourquoi il faut être en colère. On sait jusqu'où notre colère. On a tous, on ne sait pas comment l'être. On se noie un peu. Et j'ai presque envie de dire, créons un parti communiste cubain français. Parce que j'ai une admiration profonde pour eux en tant que militants, parce que, au bout de 50 ans, ce sont encore des militants. La résistance à la résignation, rappelez-vous. Leur modèle de persévérance, rappelez-vous. Non, ce ne sont pas des apparatchiks. Non, ce n'est pas un parti de masse. Non, on n'a pas des avantages lorsqu'on devient membre du parti communiste à Cuba, on n'a que des emmerdes. C'est donc encore une vocation. Ce sont encore des militants. 50 ans plus tard, ils n'ont jamais commis aucune des erreurs. Donc, on a des leçons à prendre, à mon avis, sur ce qu'est la politique. Les fausses colères, ce sont les vrais problèmes. Comment est-ce qu'on fait de la politique? Mais il n'y a pas que ça. La question de l'internationalisme, à mon avis, a été beaucoup sous-estimée par les militants en France. Elle leur a coûté très cher, indirectement. Leur a coûté très cher parce que leur a rendu opaques les événements du monde. C'est-à-dire qu'ils ont trop compté sur les événements rapportés par la presse bourgeoise, si je puis dire, par nos ennemis, et essayer d'analyser les événements mondiaux à travers les filtres médiatiques de nos ennemis, c'est à mon avis quelque chose d'assez bête à faire. Et ça ne peut pas aboutir à quelque chose de très bon. C'est là où on voit des gens du style de gauche qui disent « Oui, on va faire une guerre humanitaire. » Bon. Parce que TF1 me l'a dit, grosso modo, je schématise, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est l'absence d'internationalisme qui permet cette confusion de régner. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a en soi les bagages d'un autre point de vue, les bagages d'une autre culture, d'une autre expérience, d'une empathie, lorsqu'on a l'expérience d'une situation sur place et qu'on arrive à voir comment les médias arrivent à déformer, ben, on a naturellement, sans être un spécialiste de la Syrie, des réticences à croire à ce qu'il dit. On a naturellement des réticences à avaler tout ce qu'on veut nous raconter ou tout ce qu'on nous a raconté sur Kadhafi. Beaucoup transforment ça, en ce qui me concerne, me reprochent, disent, oui, mais c'est de la sympathie pour Kadhafi. Je suis même pas sympathique de Kadhafi. Je dis simplement, je ne le connais pas assez et je sais de quoi les médias sont capables. Donc, j'ai une réserve naturelle qui s'exerce par rapport à tout ce que les médias peuvent dire, notamment lorsqu'il s'agit d'ennemis, évidemment. Mais le problème de l'internationalisme, c'est aussi la question de garder l'espoir. C'est une idée pour moi qui m'est très chère. Je vais essayer de le développer en très peu de phrases avant de vous saluer. Nous vivons une époque où un patron, par exemple, peut justifier d'un battement d'ailes de papillon dans l'Amazonie pour vous expliquer pourquoi il va fermer une usine en France. Il va vous dire, c'est la mondialisation, monsieur, tout est lié, faut faire avec. Et il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Ok, très bien, pourquoi pas. Alors à ce moment-là, moi, Victor de Dage, je réclame le droit de considérer que les victoires électorales remportées par la gauche en Amérique latine et en Amazonie sont aussi mes victoires à moi. Je ne vois pas pourquoi la mondialisation jouerait dans un sens pour le patron et jamais dans l'autre sens pour mon enthousiasme politique. Autrement dit, moi, je me décourage pas, même si je vois qu'en France, ça part en quenouille. Mais je suis dans une situation où quelqu'un, par exemple, à l'époque, vivrait dans une ville où était élu quelqu'un qu'il n'appréciait pas, mais que le reste du pays... Donc, je suis dans une commune qui s'appelle la France, une commune mondiale. Mais en ce qui me concerne, mes camarades à moi, dans les circonscriptions de l'Amérique latine, ont gagné haut la main, sont en train de gagner les élections avec des scores qui sont de mieux en mieux. Voilà, je me sens bien, je me sens poussé les ailes, je tombe pas dans l'amorosité, la résignation. Je viens parler de Cuba n'importe où, avec n'importe qui, avec tous ceux qui veulent me parler. C'est parce que je me sens aussi serein par rapport à cette question. Je me sens porté par quelque chose de plus grand. C'est bête à dire, mais on peut tuer une vie de militant à force de boucher toutes les issues. Je sais, je connais ce sentiment et je le comprends. Et une façon de boucher toutes ces issues, c'est déjà de dresser un mur entre nous et les ailleurs qui sont en mouvement. Donc, pour moi, l'Amérique latine, c'est là où ça va se passer. C'est là où les choses vont changer. C'est pas le Moyen-Orient, je suis désolé. C'est pas le monde arabe, je suis désolé. Bon, c'est des analyses personnelles, je peux me tromper. J'espère pour tous les peuples de se libérer en même temps, tous tant qu'ils sont. Mais bon, si je devais faire un pari et si je devais choisir, je pense que ça viendra de l'Amérique latine pour des tas de raisons. Pour des tas de raisons. Donc, l'importance de l'Amérique latine, Cuba étant le noyau de ça, mais pas que ça, l'importance de l'Amérique latine est primordiale et essentielle pour les années qui viennent. C'est pas pour rien que c'est toute l'Amérique latine qui s'est levée contre l'intervention en Libye, contre toute la gauche européenne qui était pratiquement toute pour. Il y a un clivage véritablement qui s'est dessiné là et qui va se dessiner à mon avis de plus en plus fort au fur et à mesure que la gauche européenne, française notamment, perd en crédibilité et en jugeote, alors que les latino-américains ont gardé toute leur lucidité. Il en va de l'avenir du monde, à mon avis. Et tout humblement, je vous le dis, et d'ailleurs ce ne sont pas mes propos à moi, mais des journalistes d'un journal de droite qui me l'ont dit ainsi. L'avenir du monde est entre les mains de la gauche latino-américaine, avec à leur tête Cuba. Voilà, merci à vous.
Donc nous remercions encore une fois Victor Dédage pour cette excellente conférence. Je crois que nos auditeurs étaient vraiment ravis d'entendre un petit peu toutes ces choses sur Cuba qu'on n'entend pas suffisamment, loin de là, et de remettre un petit peu les choses en place. Donc voilà, la conférence du 4 décembre sur Libre TeamSpeak est terminée. On rappelle également que vous pourrez retrouver Victor Dédage sur son site Le Grand Soir, très bon site d'information et de réinformation. Et voilà, donc bonne soirée à tous. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle conférence qui n'a malheureusement pas encore été fixée. Et le 18 décembre, vous aurez un nouveau libre journal